7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous, nous sommes le lundi 3 décembre. La journée de samedi restera comme une blessure collective. La place de l'Étoile envahie, l'Arc de Triomphe aux mains des casseurs, des barricades, des voitures incendiées. Des scènes de guérilla urbaine inédites depuis mai 68, du jamais vu à Paris. Et ce matin, ces questions qu'on se pose, aurait-on pu éviter ces violences? Y a-t-il eu des défaillances? Et quelles conséquences sur notre pays? Que peut faire, que doit faire le président de la République? Pour cette semaine qui commence sous haute tension, nous allons tenter de vous apporter des réponses. À 7h20, d'abord, Europe 1 va plus loin. Enquête sur le dispositif mis en place samedi à Paris. La police, les CRS, 7h40, l'analyse de Jean-Michel Apathy. Emmanuel Macron est-il au pied du mur? 7h45, mon invité, l'un des porte-parole des Gilets jaunes dans le Vaucluse, Christophe Chalençon, qui sera reçu dans quelques heures par Édouard Philippe. 8h15, Olivier Faure, le patron du PS, répondra aux questions d'Audrey Crespo-Mara. L'actualité est chargée, tendue, parfois anxiogène, mais c'est tout le pays qui est concerné. On va prendre le temps, un peu de distance aussi, pour essayer de comprendre ce qui se passe et ce qui va advenir. Bon réveil à tous. Et bon début de semaine sur Europe 1.
Merci d'avoir choisi Europe 1 ce lundi 3 décembre. Il est 7h, excellent réveil. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas.
Le journal avec vous, Hélène Zélani. Bonjour Hélène.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Paris pensée plaît après les violences et les dégradations de la manifestation des Gilets jaunes samedi. Dégâts très importants, notamment dans le secteur des Champs-Élysées. Première comparution immédiate cet après-midi pour certains manifestants violents dont les profils sont très variés. Au total, 378 personnes placées en garde à vue. Et puis cette question, comment le pouvoir peut-il réagir à une contestation de cette ampleur? Édouard Philippe est envoyé au front pour rencontrer partis politiques et gilets jaunes.
Europe 1.
Vous avez donc tous vu les images impressionnantes des dégâts dans les quartiers les plus huppés de la capitale samedi. Et d'abord, cette image symbolique du vandalisme à l'Arc de Triomphe, tagué, saccagé, des voitures retournées ou brûlées, des pavés descellés, des vitrines en mille morceaux. Pour les commerçants des 8 et 16e arrondissements, le bilan est particulièrement lourd, comme l'a constaté Pauline Jacquot.
Les bris de verre jonchent encore les trottoirs du boulevard Haussmann. Sur plus de 2 km, toutes les façades des banques sont cassées, brûlées. Des vitrines de restaurants, de cafés, d'agences immobilières détruites. Devant cette grande enseigne d'optique, Julien estime les réparations à 50 000 euros.
On voit des vitrines par terre, les trois quarts des montures qui ne sont plus là ou par terre, qui ont été piétinées. Les meubles cassés, ils ont mis un certain nombre de montures sur la place et les gens se sont servis, quoi. Donc oui, il y a eu un pillage intégral du magasin. Il y a 3 personnes qui y travaillent, donc ça va mettre des gens au chômage technique, voilà.
À côté de l'Arc de Triomphe, entre un tabac et un magasin pillé, Nathalie a réussi tant bien que mal à sauver la façade de son restaurant avenue Kléber.
J'étais sur place avec des amis, avec des clients qui étaient là, qui me connaissaient, donc on s'est mis un petit peu devant, on a fait une barrière pour éviter de recevoir des projectiles, mais bon, on en a quand même reçu, mais les gars, ils arrivaient ici, on était debout ici sur l'estrade, et ils arrivaient, et je leur disais, s'il vous plaît, ne me cassez pas mon restaurant, s'il vous plaît. C'était affreux.
80% de chiffre d'affaires en moins sur le week-end, elle craint déjà, comme beaucoup d'autres commerçants, une nouvelle manifestation la semaine prochaine.
Et d'ailleurs, des appels sont déjà lancés sur les réseaux sociaux pour une 3e journée de mobilisation samedi à Paris.
Une 4e journée, ma chère Hélène.
Oui, 4e. Voilà, acte 4 et 3e exact. Journée de manifestation. Dans une heure environ, à 8h15, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, reçoit à Bercy les organisations professionnelles qui n'arrivent pas à envisager un nouveau week-end de violence et de dégradation. Dans le commerce, les ventes ont déjà chuté de 35%, puis de 20% lors des 2 premiers samedis de manifestation. Europe 1, il est 7h02.
Les violences à Paris ont été d'une gravité sans précédent, c'est ce qu'affirme le préfet de police ce matin.
263 blessés dans toute la France, 133 dans la capitale, dont 23 du côté des forces de l'ordre, 378 gardes à vue et dès cet après-midi, la première réponse de la justice avec des comparutions immédiates devant le tribunal correctionnel de Paris. Quels sont les profils des suspects? La réponse du procureur de Paris, Rémi Hetz.
Nous avons beaucoup d'hommes de 30 à 40 ans, venant souvent de province, souvent insérés socialement, venus pour, certains le revendiquent, en découdre avec les forces de l'ordre et donc se livrer à des actes de violence tout en se revendiquant du mouvement des Gilets jaunes. Nous avons aussi d'autres catégories de personnes interpellées, notamment en seconde partie d'après-midi où nous avons des profils de gens plus jeunes, souvent de la région parisienne, franciliens, qui eux étaient plutôt motivés par une délinquance d'opportunité ou d'appropriation, qui sont venus en quelque sorte profiter des pillages.
Le procureur de Paris au micro de Guillaume Biais, qui reviendra sur la riposte policière de la manifestation de samedi dans Europe 1, va plus loin. Et puis, autre conséquence de la contestation, les stations-service à sec. C'est le cas dans le Finistère et le Morbihan, conséquence du blocage des dépôts pétroliers de Lorient et de Brest par des indépendants du BTP, rejoints par des gilets jaunes. Écoutez ce reportage de Pierre-Baptiste Vanzini sur la Nationale 165 entre Vannes et Lorient.
C'est une sorte de balai bien réglé, les voitures arrivent, décélèrent, s'arrêtent devant la pompe, juste le temps d'être bien sûr qu'elle est à sec, et repartent. Victorien fait partie de ce mouvement sans fin.
Bah là, je viens de Landévent, j'étais à Landévent, au Ray, il n'y a plus rien, c'est ma femme qui m'appelle là pour savoir comment que j'en suis là. Allô ?
Ouais, c'est bon.
Ouais, non, pas d'essence ici.
Bah là, je sais pas comment on va faire en fait.
Bah ouais, en plus, je suis dans la réserve quoi.
Tu peux rentrer ?
Bah je veux rentrer maintenant, bah ouais, si je peux quoi. Bon bah je te laisse, ouais, j'en ai marre d'arriver un dimanche soir, toi, courir après une station. Bon après, j'en veux pas aux gilets jaunes, hein. C'est le mouvement.
Toute seule dans sa station, Sandra essaie tant bien que mal de réconforter ceux qui poussent la porte. Elle ne peut pas faire grand chose de plus du gasoil, elle n'en a pas eu du week-end.
On n'en a plus depuis vendredi soir, donc là c'est vrai qu'on est en pénurie. On sait que Hennebon, il n'y a plus rien, Auray, il n'y a plus rien, Lanester, Lorient, tout est vide.
Des camions-citernes venus d'Ille-et-Vilaine et de Loire-Atlantique devraient commencer à réapprovisionner les stations dès aujourd'hui, mais la question que tout le monde se pose, c'est de savoir si cela va suffire à enrayer la pénurie. Lorient, Pierre-Baptiste Vanzini, Europe 1.
Et ce matin, le dépôt de Donge en Loire-Atlantique doit également être bloqué. Dès aujourd'hui, le préfet du Finistère met en place des restrictions, pas plus de 30 euros de carburant par voiture.
Europe 1.
Voilà pour les faits. Quelles sont les conséquences politiques? Quelle réponse le pouvoir pourra-t-il apporter aux gilets jaunes? On y revient dans la suite du journal avec Hélène Zélani. A tout de suite sur Europe 1. Bon réveil.
Europe 1.
Il est 7h07, votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec Hélène Zélani et tous les regards sont désormais tournés vers Emmanuel Macron et Édouard Philippe.
Monsieur le Président, il faut des réponses, titre le Parisien, tandis que Libération affiche le visage du Président, à peine visible sous du jaune, avec ce mot en lettres noires, submergé. Emmanuel Macron, dès son retour d'Argentine, s'est recueilli devant l'Arc de Triomphe et a constaté les dégâts sans pour autant prendre la parole. En revanche, il a demandé à son Premier ministre Édouard Philippe de recevoir les différents chefs de parti, ainsi que des représentants des Gilets jaunes, Jean-Rémy Baudot.
Et c'est donc le Premier ministre qui se retrouve en première ligne. Édouard Philippe va recevoir les chefs de parti représentés au Parlement. Une demande formulée à plusieurs reprises par l'opposition. Un moyen pour le pouvoir de mettre Marine Le Pen ou encore Jean-Luc Mélenchon devant leurs responsabilités. Eux-mêmes devront arriver avec des propositions concrètes pour sortir de la crise. Édouard Philippe qui recevra aussi des représentants des Gilets jaunes à Matignon. Un exercice périlleux qui avait tourné court en fin de semaine. Le chef du gouvernement devrait ainsi se tourner vers les Gilets jaunes les plus modérés, ceux qui ont signé un appel ce dimanche dans le JDD. Le pouvoir toujours sur le fil. Combien de temps le président pourra-t-il tenir la ligne d'une partie de ses proches qui répète que le mouvement est spectaculaire mais pas massif, ce qui mise sur un retournement de l'opinion après les images de casse. Sauf que dans la majorité, les voix se libèrent. Nombreux sont ceux qui poussent le président à faire un geste politique pour calmer les esprits. On doit apporter quelque chose à la négociation, soupire un député macroniste, bien conscient que la situation devient ingérable.
Jean-Rémy Baudot, première attendue à Matignon, la maire de Paris, Anne Hidalgo, à 8h30, suivra Olivier Faure à 10h.
Et le patron du PS sera l'invité d'Audrey Crespo-Mara à 8h15.
Édouard Philippe aurait dû s'y rendre à la COP24, 24e conférence de l'ONU sur le climat. C'est ouverte en Pologne. Les impacts du changement climatique n'ont jamais été aussi graves, rappelle la responsable du climat aux Nations Unies. Et ce matin, la Banque mondiale annonce le déblocage de 200 milliards de dollars de 2021 à 2025. L'argent qui servira à aider les pays en développement face au changement climatique.
Dans un tout autre registre maintenant, Robert De Niro à l'honneur du Festival international du film de Marrakech.
Oui, l'acteur a reçu l'étoile d'or de ce festival de la part de son vieil ami et complice Martin Scorsese. Hommage à sa carrière exceptionnelle, Mathieu Charrier assistait à la scène pour Europe 1.
Sur la scène clinquante du Palais des Festivals de Marrakech, Robert De Niro n'a pu retenir ses larmes après le discours de son ami, Marty comme il l'appelle.
Tu es l'une des bénédictions de ma vie.
Marty, qu'il a rencontré alors qu'il n'avait que 16 ans dans les rues de Little Italy à New York, s'en sont suivis 45 ans de complicité cinématographique, de Taxi Driver à Raging Bull. Écoutez Martin Scorsese.
Sur les plateaux de tournage, on nous observe souvent. Les gens pensent qu'on parle des personnages. Mais en fait, non, on papote comme deux vieux copains. Un nouveau restaurant, une nouvelle pièce de théâtre, une dent de sagesse, un nouvel urologue. Et puis je dis action, et Bob entre en scène.
Les deux hommes viennent d'ailleurs de finir leur 9e film ensemble, The Irishman, qui sortira sur Netflix l'année prochaine, avec bien sûr dans le rôle principal celui d'un tueur à gages, Robert De Niro, qui a tenu à retrouver son vieux compère.
Vous savez, plus on vieillit, plus on devient sentimental. Et on se dit, c'est peut-être la dernière fois, j'ai 75 ans. Mais j'ai eu tellement de chance de faire toutes ces choses avec Marty.
Scorsese et De Niro qui ont même laissé entendre qu'ils tourneront prochainement leur 10e film, avec également au casting Leonardo DiCaprio. Au Festival du film de Marrakech, Mathieu Charrier, Europe 1.
Et puis un mot de foot pour la première fois depuis le début de la saison. Le PSG a concédé un match nul 2-2 à Bordeaux et en plus Neymar est sorti blessé.
Hélène Zelani, are you talking to me?
Yes, j'ai pas pu
m'empêcher dès que tu me dis De Niro. C'était le journal d'Hélène Zelani sur Europe 1.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Et il est 7h11. Souriez, c'est l'édito éco avec Région Job. Des milliers d'entreprises recrutent près de chez vous. Retrouvez-les sur regionjob.com. Et l'édito éco, c'est avec vous, Nicolas Barré.
Souriez, Nicolas Barré, directeur de la rédaction du journal Les Échos. Week-end de violence et de débordement. Le gouvernement semble dans l'impasse, mais la situation est également embarrassante pour les syndicats.
Oui, exactement. Le mouvement est un défi également pour les corps intermédiaires et au fond, leur problème est un peu le même que pour le gouvernement, c'est-à-dire reprendre la main par rapport à un mouvement qui leur échappe et qui n'attend pas grand-chose, sinon rien du tout, des syndicats. Cette situation inédite constitue un test de survie pour eux. Alors, deux stratégies sont possibles. La première consiste à courir derrière les gilets jaunes, c'est ce que fait la CGT. Ça n'était pas l'intention première d'ailleurs de Philippe Martinez, son patron, mais il y a été poussé par sa base. Martinez est en quelque sorte la tête d'une organisation dont le corps se radicalise facilement et qu'il ne maîtrise pas totalement. Donc en soufflant sur les braises, la CGT espère rallier à elle une partie du mécontentement qui s'exprime. Stratégie peu probante pour le moment. On n'a encore pas vu beaucoup de gilets jaunes proclamer CGT avec nous.
Et l'autre stratégie, Nicolas Barré?
Elle consiste à dire au gouvernement, nous vous avions prévenu, vous avez négligé les corps intermédiaires et donc maintenant discutons avec tout le monde. C'est ce que disait Laurent Berger de la CFDT hier à ce micro. Mais alors discuter de quoi? Le leader de la CFDT propose un Grenelle du pouvoir de vivre, manière de dire que les revendications vont au-delà du pouvoir d'achat, que la question est aussi celle de l'égalité devant la transition énergétique, de la compétitivité des territoires, de l'accès aux infrastructures, etc. Cette stratégie repose en fait sur le calcul suivant. Une fois que les gilets jaunes se seront un peu organisés entre eux et qu'ils avanceront des revendications plus construites et cohérentes, qu'ils auront fait le tri, eh bien ils vont s'apercevoir que ce qu'ils demandent n'est pas si éloigné des revendications classiques des syndicats réformistes. Et au fond, ils vont découvrir que comme les syndicats, ils ont le choix entre deux stratégies, le chaos ou le retour à la raison. Espérons qu'ils se rallieront à la seconde.
Nicolas Barré, l'édito éco, c'est tous les jours à 7h10 sur Europe 1. Merci Nicolas.
Et il est 7h13, l'heure de retrouver Martin Fenot qui se trouve en direct là sur le terrain Nikos.
Vous êtes où Martin Fenot ce matin?
Alors je me trouve près d'un monument majestueux, un symbole national qui a été pillé, saccagé. Je suis devant l'Arc de Triomphe à Paris. Face à moi, il y a la flamme sur la tombe du soldat inconnu. Et je voulais ce matin vous raconter l'histoire de celles et ceux qui, dans un épais nuage de gaz lacrymogène, alors que CRS et manifestants en gilets jaunes s'affrontaient, eh bien ont tout fait pour protéger cette flamme. Écoutez Nicolas, un jeune réserviste.
J'ai vu que la tombe était dévastée sous les canettes de bière, les bouteilles de verre d'alcool, les grenades. Ça m'a glacé le sang. Avec d'autres, on allait récupérer toutes les barrières de cérémonie et les barrières police qui étaient éparpillées sur toute la place. On a essayé de les récupérer et de faire une protection. Vous êtes en train de retirer les œufs, la pisse, tout ça. Vous savez qu'il y a un pauvre petit gars qui n'a pas eu de vie pour nous en dessous. Moi, j'ai honte. Je me suis surpris 3-4 fois à retenir mes larmes et à vouloir chialer. C'est un monument aux morts, le premier de France. C'est un lieu, le lieu de souvenir national avec la flamme du souvenir. Ça, qu'on soit gilet jaune, pas gilet jaune ou contre, c'est tout le monde qui doit être autour de ça. C'est les forces de l'esprit, c'est l'immatériel, c'est notre âme. Et on ne peut pas, avec des bonnes excuses, faire des compromissions pour renier sur notre âme. Sinon, il n'y aura plus rien.
Il est fort ce témoignage. Témoignage d'un jeune réserviste ce matin sur Europe 1. Et cette flamme est ravivée chaque soir, Martin. Est-ce que cela a pu se faire samedi au milieu des affrontements?
Oui, oui, oui. La cérémonie a été écourtée, mais elle a bien eu lieu. Notamment parce que Valérie, commissaire à la flamme, s'est frayé un chemin au milieu de la cohue pour aller se recueillir.
C'était une forme de colère, une forme de colère intérieure. C'était viscéral que de venir. Je savais que ça pouvait être dangereux. Je savais que je prenais un risque. Mais malgré tout, moi, je trouve que c'est juste essentiel de se dire on ne laisse pas faire. Il y a plus de 100 ans, il y a des millions de morts. qui ont œuvré quelque part en laissant leur vie pour nous permettre de vivre dans un pays libre et démocratique aujourd'hui. On a le droit d'être contre un certain nombre d'idées, mais pas en foulant la dalle sacrée.
En foulant la dalle sacrée, on va contre le côté justement intouchable de l'Arc de Triomphe. Ce matin, tout est redevenu normal, Martin Fenot, vous le confirmez ?
En apparence, oui, la tombe du soldat inconnu, elle a été nettoyée, la flamme brûle. Mais l'intérieur du monument est toujours inaccessible au public. Il y a en ce moment des enquêteurs de la police scientifique qui travaillent sur place pour tenter d'identifier les casseurs.
On a vu des images tourner sur Internet et à la télévision aussi tout le week-end. Et on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros de dégâts. Un mot d'histoire, c'est Napoléon qui a ordonné la construction de l'Arc de Triomphe au lendemain de la bataille d'Austerlitz pour perpétuer le souvenir des victoires de ses armées françaises. Vous êtes tous ce matin, c'est tous les jours sur Europe 1. À 7h12.
Europe 1. Il est 7h16, restez avec nous sur Europe 1, à suivre Nico Saliagas.
Après un week-end de chaos, donc, on s'interroge sur ce qui aurait pu être évité ou pas. 5000 policiers ont été déployés à Paris samedi, mais visiblement, ça n'a pas suffi. Y a-t-il eu des défaillances ? Enquête à suivre dans Europe 1 va plus loin, dans un instant.
7h-9h, Nico Saliagas sur Europe 1.
Il est 7h18, les principaux titres de l'actualité à revenir ce matin, Nico Saliagas.
Série de consultations politiques dès ce matin à Matignon. Édouard Philippe reçoit les dirigeants des principaux partis à la demande du président, mais aussi des représentants des Gilets jaunes. Plusieurs dizaines de comparutions immédiates sont prévues au tribunal correctionnel de Paris à partir d'aujourd'hui. 378 personnes ont été placées en garde à vue après les violences de samedi. Y a-t-il eu défaut d'information sur la nouvelle formule du Levothyrox ? L'action collective de plus de 4000 patients se plaignent d'effets secondaires est examinée par la justice aujourd'hui.
Europe 1. Nico Saliagas, Europe 1 va plus loin. Enquête ce matin sur la gestion des débordements par les forces de l'ordre samedi à Paris.
Les images nous ont marqués, choqués, des violences et des pillages samedi dans les rues de la capitale, des scènes de guerre. Et ce matin, on se pose tous cette question simple. Comment cela a-t-il pu arriver en plein cœur de la capitale, malgré l'impressionnant dispositif policier qui a été mis en place ? Avec nous, Guillaume Billet du service police-justice d'Europe 1. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
On a vraiment l'impression que les forces de l'ordre étaient dépassées.
C'est une impression, oui. Maintenant, il faut être très clair sur un point. Personne n'avait vu cela depuis des décennies. Une telle intensité de violence, des assaillants aussi mobiles, des dégâts aussi importants et tout ça en une seule journée. Ce qui est inédit aussi, c'est l'ampleur de la riposte. Je peux vous révéler ce chiffre ce matin. Plus de 12 000 grenades lacrymogènes ont été tirées par les CRS et gendarmes mobiles. 12 000, à titre de comparaison, comme ça, à Notre-Dame-des-Landes, c'était 1 000 par jour.
Oui, mais 12 000, c'est hallucinant. Pourquoi autant ?
Eh bien, pour repousser les manifestants violents, parfois aussi pour saturer l'air, y compris l'air de l'immense place de l'Étoile. C'est pour ça qu'on a vu, vous vous souvenez, ces grands nuages de gaz lacrymogène qui englobaient tout comme ça. Le but, c'est de tenir à distance les casseurs, d'éviter les corps à corps, les contacts directs, parce que ça provoque énormément de blessures. Cette tactique, cette doctrine, c'est ce que les spécialistes appellent le maintien de l'ordre à la française. C'est un savoir-faire reconnu et enseigné à l'étranger, notamment par cet homme, le général Bertrand Cavalier. Il a commandé le centre d'entraînement des forces de gendarmerie de Saint-Astier.
La première des priorités, c'est de préserver les vies, ce qui a été le cas. Après, si on peut également protéger les biens, on le fait. Mais l'impératif premier, c'est quand même de limiter l'emploi de la force pour préserver les vies, de façon à permettre une sortie de crise et l'instauration d'un dialogue. C'est ça la philosophie du maintien de l'ordre français. Et là, en l'espèce, les forces de l'ordre, gendarmes, CRS, policiers ont eu un comportement exemplaire.
Alors on entend bien cet argument, quand il y a une manifestation, on évite surtout de faire des blessés, mais tant pis s'il y a des vandales qui cassent tout sur le passage, ça c'est pas grave.
Alors c'est en partie ça effectivement, même si bon, je vous l'accorde, c'est un peu dur à entendre quand on sait qu'il y a autant de forces de l'ordre mobilisées, mais ce qu'il faut comprendre c'est que samedi ça n'avait rien à voir avec une manifestation classique, vous savez un cortège sur un parcours défini, là il y avait un périmètre à sécuriser de 10 km autour des Champs-Élysées et des institutions pour éviter à tout prix que les casseurs y pénètrent comme le samedi d'avant, et c'est ça qui a mobilisé le gros des troupes toute la journée. Pendant ce temps-là, les gilets jaunes se sont éparpillés pour détruire, on l'a vu, dans des rues adjacentes où il n'y avait pas de forces de l'ordre pour les en empêcher. En revanche, s'il y a eu plus de 400 arrestations, c'est parce qu'il y avait bien d'autres policiers pour les rattraper après coup. Il y avait même des hommes d'élite de la BRI, c'est ce qu'a confirmé le préfet de police Michel Delpuech.
Jamais les moyens civils de la BRI n'avaient été mobilisés au service de la gestion d'un événement. Les moyens plus lourds, c'est plus compliqué pour intervenir. Ça pèse l'équipement d'un CRS qui fait de la protection. Donc là, on avait dédié des fonctionnaires de brigades anticriminalité, des fonctionnaires des compagnies d'intervention qui ont beaucoup bougé dans la capitale. Certains fonctionnaires indiquaient hier qu'ils avaient couru plus de 15 km pour aller ici, pour aller là, pour faire des interventions.
Alors, mais est-ce qu'au lieu d'interpeller les casseurs après coup, la solution n'est-elle pas de déployer plus de policiers en amont pour les empêcher d'agir ?
Alors, malheureusement, ce n'est pas aussi simple. On en revient à la particularité de ce mouvement. Les rassemblements ne sont jamais déclarés. Imaginez, même si le préfet, je ne sais pas, déployait 2000 hommes de plus, les manifestants violents trouveraient toujours un autre lieu à saccager. En revanche, être plus mobile, plus réactif, ça, c'est une piste. D'autant que les renforts ne sont pas extensibles à l'infini, parce que là, on parle des violences à Paris, mais il y en a eu dans bien d'autres villes. La préfecture du Puy-en-Velay a été incendiée, rien que cet exemple. C'est impossible de concentrer toutes les forces dans la capitale chaque samedi. C'est pour ça qu'à ce stade, la sortie de crise, elle n'est pas policière, elle est forcément politique.
Merci Guillaume Billet du service police-justice de la rédaction d'Europe 1 pour ces éclairages. Europe 1 va plus loin, c'est tous les jours. À 7h.
Europe 1. Europe 1, il est 7h23.
À suivre l'innovation du jour avec Anissé Mbida, on va parler de contraception ce matin avec une pilule, mais qui concernerait les hommes cette fois-ci. À tout de suite.
Et si vous souhaitez réagir, faites-le en nous appelant au 3921 ou avec le hashtag Europe 1.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
De fausses pubs se cachent sur Europe 1. Soyez attentifs à tout moment si vous entendez une fausse publicité. Tentez votre chance en envoyant pub par SMS au 739-21. C'est 75 centimes plus le coût du SMS. 3 SMS pour jouer ou appelez le 39-21, 50 centimes par minute. Si vous êtes tiré au sort, vous gagnerez le tout nouvel iPad Pro. Bonne chance à tous.
La transmission pour les chefs d'entreprise aujourd'hui de PME, de PMI, c'est quand même quelque chose qui devient vraiment problématique.
Thierry Cousin, ancien dirigeant de CEPHAR.
Je pense que ça va être de plus en plus difficile de trouver des acheteurs. Il y a un véritable intérêt à réfléchir à la transmission sous forme de scope. Oui. Il faut que ce soit une véritable volonté. La scope peut permettre de garder du savoir-faire sur place, là où les gens vivent.
Chef d'entreprise, et si vous cédiez à vos salariés ? Visitez le site jetransmisamessalariés.fr.
On ne choisit pas ses voisins. Il y a ceux qui jouent de la musique jusqu'au bout de la nuit. Ceux qui enchaînent les réunions de famille.
Oh, je suis tellement content de venir à Barek, Mulhouse.
Et ceux qui s'invitent chez vous le soir de Noël.
Je suis le Père Noël.
On ne choisit pas ses voisins. Mais avec Canal, on peut choisir de profiter du meilleur du cinéma et des séries à tout moment sur MyCanal. Ce Noël, retrouvez Coco sur Disney Cinéma, La Petite Famille sur OCS, Santa et Compagnie sur Canal+. Découvrez les offres Canal à partir de 19,90€ par mois sans engagement. Abonnement via PC, Mac, tablette, smartphone, conditions sur boutique.canal.fr.
Ça match.
Alors comment ça se passe chez Sport 2000 ? Dans notre magasin de Jaya, c'est que du bonheur Antoine Griezmann. La preuve avec notre sélection de Noël. Jusqu'au 24 décembre par exemple, la doudoune Homme Sun Valley est à 79,95€, soit 50% de remise.
Ça match.
Joyeux Noël Antoine Griezmann. Sport
2000.
Ça match.
Il y a eu les Vélib, puis les Vélib électriques.
Les trottinettes, puis les trottinettes électriques. Aujourd'hui, Paris innove encore. Voici la nouvelle façon écologique et fun pour se déplacer dans la ville. L'entendez-vous arriver ?
Pour que chacun puisse respirer du bon air à plein poumon, la mairie lance le ballon kangourou électrique.
Son moteur révolutionnaire permet de rebondir plus de 8000 fois par charge.
Bastille les champs, 7 minutes, qui dit mieux ?
Téléchargez vite l'appli ballon sauteur adulte kangourou électrique.
Ceci est un moyen de transport, pas d'utilisation avant 18 ans et après 78.
Il est 7h25.
Retrouvez l'innovation du jour avec EDF.
Et avec Anis Mbida, Nico Saliagas.
La trottinette kangourou, là, c'était presque une innovation de
trottinette kangourou.
Juste pour mettre un peu de sourire, c'était la fausse pub, vraisemblablement. Ah oui. Allez, je balance, je m'en fous. On vient de lancer un test à grande échelle d'un équivalent masculin de la pilule. Expliquez-nous tout.
Oui, on en parle depuis des années. Hein, mais là, ça y est, 420 couples dans le monde entier vont utiliser un préservatif masculin pendant un an et vérifier évidemment que tout fonctionne correctement. C'est le premier test à grande échelle d'un préservatif réversible pour l'homme. Alors, ce n'est pas une pilule à avaler, hein, mais un gel que l'on se passe tous les jours sur les épaules et sur le dos.
Sur les épaules et le dos ?
Oui, sur le dos et le dos. Oui, oui, oui. Et il va bloquer pendant 72 heures toute production de spermatozoïdes. Donc, l'avantage, hein, c'est qu'on peut l'oublier un jour ou deux et on restera quand même protégé. Il s'appelle le NES/T. Ça fait plus de 10 ans qu'il était en développement.
Et pourquoi ça met autant de temps à développer un contraceptif masculin ?
Parce qu'il est beaucoup plus compliqué de stopper des millions de spermatozoïdes fabriqués tous les jours qu'un seul petit ovule. ovule qui est fabriqué lui tous les mois. D'accord. Ensuite, il fallait aussi arriver à limiter les effets secondaires. La plupart des produits qu'on a vus jusqu'à présent soit étaient non réversibles, on devenait stérile, soit ils faisaient perdre beaucoup de muscles, parfois on avait même plus du tout de libido, ou au contraire, carrément on devenait un prédateur sexuel.
Ah ouais.
Apparemment, c'est pas le cas avec ce gel. Il a été testé avec succès sur des petits groupes de personnes et maintenant on passe à un test à grande échelle.
Est-ce qu'on peut se raser avec? Non mais c'était ouais, pour histoire de mettre un peu d'ambiance. Non mais il sera commercialisé quand?
Alors pas avant 5 ans malheureusement. Le test va durer pendant 2 ans. Ensuite il faudra encore l'aval des autorités. Donc ça sera long. Mais à terme ça permettra de partager un peu plus la responsabilité et la charge mentale de la contraception entre les hommes et les femmes.
Merci Anis Mbida. L'innovation pour l'égalité, c'est tous les jours à 7h25.
C'était l'innovation du jour avec EDF. Se chauffer, s'éclairer, se déplacer. Aujourd'hui, EDF innove au cœur même des territoires pour faire progresser la transition énergétique. Plus d'infos sur edf.fr.
Dans un instant, le journal de Céline Kahneman, mais tout de suite la météo avec Laurent Cabrol, Nikos.
Mon cher Laurent Cabrol, est-ce qu'il neige?
Non mais, alors je sais, c'est une question que tout le monde me pose. Alors,
avant enfin, Noël, est-ce que la neige sera là?
Alors la semaine prochaine, je pense qu'on peut commencer à rêver un peu de neige la semaine prochaine. Pas voilà. Cette semaine, bien au contraire, c'est la grande douceur. Tenez quelques valeurs. À Lille, il fait 13 degrés, il en fera 14 cet après-midi. Clermont-Ferrand, il fait 14, il en fera 16. Paris, il fait 14, il en fera 14. Vous voyez que les températures sont vraiment très douces. Alors ce matin, elles sont très douces et dans la journée, elles le seront également. Donc nous avons vraiment un temps presque pas printanier, n'exagérant rien, mais un temps automnal dans sa plus grande douceur. Alors malheureusement, ce temps, cette douceur s'accompagne de pluie. Je dis malheureusement parce que là, c'est quand même moins souriant. Pays de la Loire, Centre, Lorraine-Alsace, Poitou-Charentes, Alsace, pardon, j'ai déjà cité, oui. Limousin, Aquitaine, région toulousaine et Alpes du Nord, partout dans ces contrées, les pluies seront fréquentes. Nous aurons par ailleurs sur des régions comme la région parisienne et la région lyonnaise, des averses et parfois des orages, et sur le Piémont pyrénéen et sur le bassin méditerranéen, un temps sec et voilé.
Merci beaucoup Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe 1. Question épargne, la Caisse d'épargne vous répond.
Blandine Bernier, vous êtes experte assurance vie à la Caisse d'épargne. L'assurance vie est le placement préféré des Français. Encore faut-il être bien accompagné pour adapter son contrat à ses objectifs.
Absolument. L'assurance vie permet de rechercher du rendement pour votre capital en investissant sur les marchés financiers, ce qui comporte une certaine prise de risque. À la Caisse d'épargne, selon vos besoins et votre profil, nous vous proposons des options pour accompagner votre investissement et chercher à le protéger au mieux.
Et ça veut dire quoi concrètement ?
Concrètement, vous pouvez par exemple mettre automatiquement vos plus-values à l'abri ou encore limiter la baisse de votre capital en cas de chute importante des marchés financiers. À vous de choisir avec votre conseiller la formule qui vous correspond le mieux.
Pour bien choisir ses placements, il faut être bien accompagné. Découvrez le nouveau parcours épargne personnalisé en prenant rendez-vous avec un conseiller Caisse d'épargne. Caisse d'épargne, vous être utile. La recherche de performance expose à un risque de perte en capital. Renseignez-vous en agence. Contrat d'assurance vie distribué par votre caisse d'épargne, intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS.
À suivre, Nikos Aliagas.
Monsieur le Président, il faut des réponses. C'est ce que titre ce matin le journal Le Parisien aujourd'hui en France. Des réponses, oui, mais lesquelles face à un mouvement des Gilets jaunes qui se radicalise? Que peut faire Emmanuel Macron? On en parle avec Jean-Michel Apathy dans 10 minutes. 7h45, je reçois Christophe Chalençon, porte-parole des Gilets jaunes dans le Vaucluse. Il doit être reçu dans les prochaines heures à Matignon. Bon réveil à tous sur Europe 1.
Nous sommes le lundi 3 décembre, il est 7h30.
7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Le journal avec Céline Kahneman. Bonjour Céline.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Le mouvement des Gilets jaunes est allé crescendo depuis le 17 novembre pour atteindre samedi des scènes de violence inouïes, notamment à Paris. Des émeutes inédites depuis mai 68, des quartiers de la capitale mis à sac, dévastés et des forces de l'ordre dépassées par des assaillants très mobiles. Et ce chiffre, plus de 12 000 grenades lacrymogènes, 12 000 tirées par les CRS et les gendarmes. Objectif, tenter de tenir à distance les casseurs et ceux qui cherchaient à en découdre. On a en tête cette image d'un CRS mis à terre et roué de coups par plusieurs personnes. Les policiers au bord de la rupture demandent désormais l'appui de l'armée. Écoutez Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO.
Nous aujourd'hui on n'en peut plus. On n'a plus de capacité à nous reposer et en plus de ça, on est confronté à une violence extrême. Nous à un moment donné on va dire à ce moment, stop, là c'est terminé. L'appui de l'armée, on n'a pas besoin d'état d'urgence pour l'avoir. Moi, je considère que ça existe déjà. On peut permettre à des militaires, généralement ceux issus de l'opération Sentinelle, de remplacer les GRS sur des points de garde bâtimentaire. Donc on peut le faire, c'est nécessaire. Ça nous permettrait de faire du roulement, et de permettre de, je dirais, de quantifier les forces d'opération pour le prochain week-end.
Un propos recueilli par Marguerite Lefebvre.
Et parmi les images particulièrement choquantes des violences et dégradations à Paris samedi, l'Arc de Triomphe, ciblé par les assaillants.
Oui, l'édifice recouvert de tags, l'intérieur saccagé, la tombe du soldat inconnu profanée. C'est d'ailleurs là qu'Emmanuel Macron s'est rendu à son retour d'Argentine pour se recueillir. Et hier soir, la cérémonie quotidienne pour raviver la flamme a bien eu lieu. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, était présent, ainsi que la secrétaire d'État aux anciens combattants, Geneviève Darrieussecq.
C'est le symbole de la nation, la flamme de la nation qui est sous cet arc de triomphe. Donc pour moi, l'arc de triomphe est un symbole fort de la France. Et c'était s'attaquer à la France. Ces gens-là veulent le chaos. Je dis aux personnes qui sont en colère que je comprends les demandes, je comprends qu'ils expriment des demandes urgentes. Mais tout cela ne pourra se passer que par une action politique, pas par la violence et le chaos.
Geneviève Darrieussecq avec Rémi Bostaron, une action politique, c'est justement ce que demande la maire de Paris, pour qui la profanation de l'Arc de Triomphe est une honte pour la République. Elle le dit dans Le Parisien, Anne Hidalgo, qui va être reçue dans trois quarts d'heure par Édouard Philippe. Se succéderont ensuite Olivier Faure, Laurent Wauquiez ou encore Marine Le Pen.
Emmanuel Macron, qui ne s'est toujours pas exprimé et dont la parole est très attendue, s'est aussi rendu hier avenue Kléber dans le 16e arrondissement de Paris.
Ouais, voitures brûlées, vitrines brisées, magasins pillés, les dégâts sont considérables sur cette avenue pour les commerçants traumatisés et écœurés, comme Nathalie, restauratrice, qui a réussi toutefois à sauver la façade de son établissement.
J'espère que M. Macron va faire quelque chose. Il est passé, il a dit qu'il s'arrêterait à tout, il s'est arrêté à un seul restaurant. Il aurait dû venir voir les commerçants, il aurait dû venir demander ce qui se passe. On lui aurait dit vraiment ce qu'il y a, parce que déjà bloqué, il aurait fallu bloquer les portes principales, porte Maillot, porte Dauphine, mais pas faire ce qu'ils ont fait là. Oui, là ils ont évité l'avenue des Champs-Élysées, mais tout le reste, avenue Victor Hugo. J'ai vu les pillages en direct, j'ai vu les pillages.
En termes de clientèle, de manque à gagner, vous avez chiffré peut-être?
J'ai rien fait, 80% en moins de mon chiffre d'affaires.
Nathalie, restauratrice, avec Pauline Jacquot. Deux autres chiffres à retenir. 378, c'est le nombre de personnes placées en garde à vue à Paris. Les comparutions immédiates vont débuter cet après-midi. 263, c'est le nombre de personnes blessées sur l'ensemble du territoire. Il y a eu des débordements également à Toulouse ou encore à Charleville-Mézières. Ce 1er décembre marque en tout cas un tournant dans le quinquennat d'Emmanuel Macron. Les revendications des Gilets jaunes dépassent désormais largement le seul prix du carburant. Certains demandent des augmentations de salaire ou encore la baisse des loyers. Et une nouvelle journée de mobilisation est attendue samedi prochain. Autre grogne ce matin, toujours à Paris, celle des ambulanciers, vous les entendez. Plusieurs centaines de véhicules rassemblés en ce moment, place de la Concorde, sirène hurlante. Ils protestent contre la loi de finances 2019 et la remise en cause des conditions de transport sanitaire.
Europe 1, il est 7h34.
Et en pleine fronde des Gilets jaunes, Europe 1 vous dévoile ce chiffre sur la fracture entre les grandes villes et le monde rural.
Oui, 51% des habitants et des petites communes sont équipés en 4G, 75% en région parisienne. Étude du Crédoc commandée par l'Arcep, gendarme des télécoms. Écoutez Martine Lombard.
Aujourd'hui, 61% des Français disent avoir la 4G, mais ils sont encore du coup 39% à ne pas l'avoir. Pour le moment, il y a encore des disparités fortes entre les communes rurales, où ils sont un peu plus de la moitié à avoir la 4G, et puis les villes de plus de 100 000 habitants, où ce taux est beaucoup, beaucoup plus fort. Donc, beaucoup, beaucoup d'efforts à faire avec un engagement très fort des opérateurs. Maintenant, il faut que ces engagements soient tenus.
Martine Lombard, membre du l'ARCEP avec François Geffrier. Dans l'actualité également, le procès du Lévothyrox, plus de 4 000 patients regroupés contre le laboratoire Merck. La nouvelle formule de ce médicament aurait causé de nombreux effets secondaires. Les plaignants réclament chacun 10 000 euros d'indemnisation. Autre procès, celui de 10 pompiers de Paris. Ils vont être jugés près de 7 ans après des accusations de viol au sein de la prestigieuse équipe de gymnastique qui avait été dissoute. Jugés pour agression sexuelle commise lors d'un bizutage au fond d'un car. Les deux plaignants et leur avocat Nicolas Sellupica espèrent beaucoup de ce procès.
Nous savons ce qui s'est passé dans ce bus ce jour-là. Simplement, nous attendons des 10 prévenus que derrière ce qu'ils appellent des traditions, des rituels, un bizutage, un chahut, ils reconnaissent qu'il y a des faits très graves d'une autre époque, d'un autre temps, qui revêtent des qualifications pénales extrêmement graves. Des violences en réunion, des agressions sexuelles. Donc ça va être difficile, nous le savons, mais nous souhaitons que cette qualité de victime leur soit officiellement reconnue à l'issue de ce procès.
Nicolas Sellupica avec Pierre de Cossette pour Europe 1.
Merci Céline Kallmann pour le journal de 7h30.
Europe 1. Il est 7h36.
Jean-Michel Apathy, après ce week-end de débordements et de violences inédites depuis mai 68, on n'avait pas vu ça. Oui. La semaine de tous les dangers pour Emmanuel Macron est bien là.
Oui, c'est ça. On attend beaucoup d'Emmanuel Macron cette semaine, qu'il prenne la parole pour tenter de faire en sorte que ce mouvement s'arrête. Mais il y a aussi une autre réflexion qu'il faut avoir. Nous sommes beaucoup trop complaisants avec les violences que nous avons constatées samedi.
Jean-Michel Apathy sur Europe 1. C'est à suivre juste après ça.
7h-9h, Nikos Aliagas sur Europe 1. Il est 7h40, Nikos Aliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
La France sous le choc attend des réponses, titre Le Figaro. Emmanuel Macron submergé pour Libération. Comment en sortir à la une de la Croix, Jean-Michel Apathy? Tous les regards se tournent aujourd'hui vers un seul homme.
Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que Emmanuel Macron doit, par son verbe, parce que c'est cela qui compte aujourd'hui, empêcher le renouvellement des violences qui nous ont choqués samedi, mais qui peuvent déstabiliser toute une société et toute une nation si elles se reproduisent. Donc l'objectif d'Emmanuel Macron, plus facile à définir qu'à atteindre, c'est de faire en sorte que les Gilets jaunes n'aient plus de raison de manifester samedi prochain. C'est aussi simple que ça, du moins simple à dire. Donc une réflexion est en cours à l'Élysée. Que va-t-il en sortir? On n'a pas d'informations précises aujourd'hui. Ce qui apparaît certain, c'est qu'Emmanuel Macron va s'exprimer de manière solennelle dans la semaine. Et là, il n'a pas le droit à l'erreur. Il a loupé son discours la semaine dernière. Il ne peut pas le louper cette semaine. Une question complémentaire est posée à Emmanuel Macron. Est-ce que les décisions qu'il prendra, s'il en prend, parce que pour l'instant, on ne sait pas grand-chose de sa réflexion, lui permettront de continuer à travailler avec Édouard Philippe ou pas? Édouard Philippe a fixé au moins une ligne rouge. Ne rien changer à la fiscalité de l'essence, puisque l'augmentation du gasoil et de l'essence sont prévues le 1er janvier prochain. Donc, si Emmanuel Macron veut continuer à travailler avec Édouard Philippe, il ne doit pas toucher à cette fiscalité, alors que les Gilets jaunes demandent son remplacement, ou son annulation d'ailleurs. Autour d'Emmanuel Macron, on suggère pourquoi pas de se séparer d'Édouard Philippe, mais remplacer Édouard Philippe par qui? Ça, ce n'est pas évident. Donc, l'objectif, c'est d'éviter le renouvellement des violences. À ce propos, il faut revenir sur la distinction que l'on fait, dans les médias notamment, mais pas seulement, entre les casseurs et les gilets jaunes. Ce que nous a appris la journée de samedi, parce qu'elle nous a appris une chose, c'est que cette distinction n'a aucune pertinence. Les gilets jaunes ont été aux côtés des casseurs dans la journée de samedi à Paris, et on voit les résultats. En province où il n'y avait pas de casseurs, des gilets jaunes sont devenus des casseurs. Les dégâts sont considérables à Toulouse, à Bordeaux, au Puy-en-Velay, à Avignon. Partout en France, on constate que la violence est désormais au cœur du mouvement et qu'elle est encouragée, parce que justifiée, par des responsables politiques. Et c'est dans ce climat de complaisance...
Comme qui, par exemple?
Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Ségolène Royal, Laurent Wauquiez. Et ça, c'est inadmissible, évidemment. Dans ce contexte-là, c'est avec une complaisance inouïe, vraiment jamais observée, qu'on voit les dirigeants du mouvement des Gilets jaunes appeler encore aux manifestations samedi. Et s'il y a des manifestations samedi, il y aura des violences. C'est une irresponsabilité totale qui est en train de s'installer, avec une complaisance qui est coupable. On ne doit jamais, dans une démocratie, être complaisant avec la violence.
Jean-Michel Apathy, son point de vue ce matin sur Europe 1. À présent,
c'est
nous allons passer un coup de fil, effectivement, à nos auditeurs. Et vendredi matin, nous étions à Mourinx, dans les Pyrénées-Atlantiques, pour une matinale spéciale. Et Jean-Michel, j'avais rencontré Hélène, qui tient une petite épicerie dans cette commune. Elle soutient les Gilets jaunes. Elle est avec nous en ligne. Bonjour Hélène.
Bonjour Nikos, bonjour Jean-Michel.
Bonjour Hélène.
Vendredi, on n'avait pas encore assisté à toutes ces violences. Quelques heures plus tard, à Paris notamment, mais pas seulement. Vous avez suivi tout ça, Hélène?
Oui, bien sûr.
Quel est votre sentiment ce matin?
Sentiment de gravité, tout ce qui se passe est très très grave, mais je pense que l'État l'a un peu provoqué.
Mm-hmm. Mais vous condamnez quand même ou pas ce qui s'est passé?
Je condamne.
Parce qu'effectivement, on entend ça, l'État a provoqué, il n'avait qu'à donner des solutions plus tôt, mais là on a quand même des images de guerre dans plusieurs villes.
Et
ça dépasse les revendications des Gilets jaunes. On n'a pas eu de mort, enfin il y a eu 3 morts quand même depuis le début. Mais ça aurait pu être plus grave, Hélène, vous êtes d'accord avec ça?
Mais bien sûr, mais ça va devenir plus grave si Monsieur le Président ne fait rien. Mm-hmm. Il faut qu'il se réveille, on va lui mettre des écouteurs. Je ne sais plus, on ne sait plus.
Qu'est-ce que vous attendez?
Les jeunes ne veulent pas de cette colère.
Qu'est-ce que vous attendez de la part du président et peut-être d'Edouard Philippe qui va recevoir ce matin des Gilets jaunes?
Je pense qu'Edouard Philippe, avec ça n'a rien changé. C'est Monsieur le Président qu'il faut qu'il sorte de son mutisme et qu'il parle aux Français, qu'il dialogue. On est pris en otage, il faut un dialogue, il faut qu'il donne des trucs concrets. On est à 3 semaines de Noël, les gens ne se posent même pas la question qu'est-ce qu'ils vont acheter à Noël. Ils se demandent comment ils vont remplir leur frigo,
donc
comment
vous,
ils vont payer les taxes.
Pour vous, ma chère Hélène, c'est le président qui a la clé.
Bien sûr que c'est le président qui a la clé. Nous, on ne peut pas, c'est toutes les classes. Monsieur Jean-Michel Apathy a très, très bien parlé. Les classes politiques qui s'en mêlent, mais c'est du n'importe quoi. Mmh. Il faut laisser la parole au peuple et maintenant au président. Il faut qu'il se débrouille. On va lui dire hey, « Manu, tu descends ou quoi ?» Mmh. Les inconnus l'ont fait, nous, on le redit.
Vous avez toujours gardé votre bonne gouaille, hein. Hélène Nadal. On était content de vous rencontrer à Mourinx. C'est passé le bonjour à toutes les Mourinxoises et les Mourinxois. Hein.
Je vous remercie de nous avoir laissé la parole.
Toujours, on reviendra. Merci pour votre accueil.
Merci, au revoir.
À bientôt, bonne journée.
Et vous le savez, vous pouvez laisser vos messages, vos réactions, poser vos questions à Nikos au 3921 ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1.
Europe 1.
Il est 7h45, Nikos Aliagas.
Justement, dans un instant, je reçois l'un des porte-parole des Gilets jaunes qui demande d'être reçu par Edouard Philippe. Il s'appelle Christophe Chalençon. Il arrive dans le studio dans quelques instants. Qu'attend-il de cette semaine de haute tension? On en parle juste après ça.
7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Il est 7h47, les principaux titres à revenir ce matin, Nikos Aliagas.
Le gouvernement face à une crise majeure, Edouard Philippe va recevoir dès ce matin les chefs des partis représentés au Parlement ainsi que des représentants des manifestants. La commission des lois du Sénat a fait savoir qu'elle entendrait demain les explications de Christophe Castaner et Laurent Nouniez sur les violences de samedi. 378 personnes étaient hier soir toujours en garde à vue, dont 33 mineurs et dans l'actualité également la 24e conférence de l'ONU sur le climat en Pologne. La Banque mondiale annonce 200 milliards de dollars de financement jusqu'en 2025 pour aider les pays en développement. C'est le double par rapport à la période précédente.
Europe 1.
Nikos Aliagas, vous recevez ce matin l'un des porte-parole des Gilets jaunes dans le Vaucluse, Christophe Chalençon.
Bonjour Christophe Chalençon.
Bonjour.
Vous êtes l'un des porte-parole des Gilets jaunes dans le Vaucluse, on l'a dit. Vous étiez où samedi?
Aux Champs-Élysées.
C'est passé comment?
À l'Arc de Triomphe, au milieu des gaz. Mm-hmm. Voilà, tout simplement.
Vous avez pris des coups?
Non, pas de coups, mais on s'est fait gazer comme il faut, copieusement.
Vous avez participé à la casse ensuite?
Non, jamais de la vie. Je suis trop respectueux des valeurs de la République et notamment du monument qu'est l'Arc de Triomphe. Non, jamais de la vie, jamais, jamais.
Vous ne vous êtes pas rendu ensuite dans l'Arc de Triomphe avec
Non,
les...
voyons. Pour y rentrer, il faut y être invité.
Vous condamnez, Christophe Chalençon, ce qui s'est passé à l'intérieur?
Mais je le condamne. C'est l'aboutissement de 40 années de laxisme politique. Voilà. Mais c'est le fruit de...
Ça ne justifie pas quand même la violence.
Ah, mais la violence, le problème, c'est quand vous avez des gens, comme nous le voyons sur les vidéos, qui n'ont rien à voir avec les Gilets jaunes, qui sont mis à l'écart de la République. Voilà, mais ce qu'il arrive.
Vous les condamnez fermement?
Mais je les condamne fermement. Et c'est des gens qui ne devraient pas avoir accès à ce genre de manifestation, puisque la manifestation était pacifiste au départ.
Est-ce qu'ils prennent justement la manifestation pacifiste en otage, d'une certaine
Mais
façon?
Tout à fait. De toute façon, ils prennent toutes les manifestations en otage.
Mm-hmm. Et vous les dénoncez, vous leur dites, quand vous les croisez, parce qu'ils sont à côté de vous, j'imagine, il y en avait place de l'Étoile.
Ah, mais bien sûr, moi j'en ai croisé dans toutes les rues avec des marteaux, des baramines. Voilà, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Je ne suis pas les forces de l'ordre, je suis un simple citoyen.
Un citoyen, porte-parole des Gilets jaunes dans le Vaucluse.
Oui, non, mais ça, c'est la gouaille qui a fait que je suis là aujourd'hui. Ma maman m'a fait avec un esprit, une belle langue, donc voilà.
Vous prenez la parole, vous avez toujours fait ça? Vous avez fait de la politique? Vous
venez d'où? Je me suis présenté une fois aux législatives, les dernières législatives, pour amener un sujet qui aujourd'hui est d'actualité, uniquement les assemblées citoyennes. Voilà.
Vous allez vous rendre à Matignon aujourd'hui?
Non. Aujourd'hui, nous étions invités, mais nous avons demandé à ce que le rendez-vous soit repoussé pour nous structurer davantage et surtout peaufiner les revendications qui, à mon sens, ne sont pas assez fortes pour tout ce qui est en train de se passer.
Deux questions. Repousser à quand? Quand est-ce que vous demandez un nouveau rendez-vous? Et qu'est-ce que vous demandez justement de plus par rapport à tout ce qui a été évoqué, notamment par rapport à l'ISF, par rapport à la taxation sur le carburant?
Repousser normalement à demain. Nous entendons confirmation, mais je crois que le problème, tout le monde le survole. Tout le monde veut mettre des petites rustines à une chambrière qui est très crevée.
Qui ça, tout le monde?
Bah, je vous entends sur tous les plateaux, sur les politiques, une grande partie des gens ne vont pas chercher le fond du problème. Le fond du problème, c'est 40 années de politique qui nous ont conduits à cet état. Donc aujourd'hui, M. Castaner, et son gouvernement avec M. Philippe essaient de négocier quelques poignées de cacahuètes, mais le fond du problème, le mal est beaucoup plus profond.
Donc vous demandez une remise à plat du système ?
Ah, tout à fait. Moi, je demande déjà, nous demandons, et nous sommes plusieurs, c'est la démission du gouvernement actuel et avoir un véritable commandant, c'est-à-dire une femme ou un homme qui va prendre le devenir de la France sérieusement. Parce que je vous le garantis, si aujourd'hui rien n'est fait, je pense qu'aux Européennes, nous ouvrons le large chemin à l'extrême droite. Voilà.
Mais les sondages depuis longtemps et bien avant la crise des Gilets jaunes les donnent favoris, de toute façon un peu partout en Europe. Mais quand vous dites la démission du gouvernement, ça veut dire concrètement la dissolution du Parlement ?
Non. L'Assemblée nationale est élue au suffrage. Mmh. Le président est élu aussi au suffrage universel. Le gouvernement, l'équipage qui mène le navire normalement à bon port, est mise en place par le chef de l'État. Mmh. Donc aujourd'hui, ce gouvernement, on le voit bien, et M. Castaner, qui n'a pas réussi pendant trois week-ends à gérer le mal. Et là, croyez-moi que si c'est simplement quelques cacahuètes qui nous sont offertes, ou si le cap est maintenu comme il l'est dit, et surtout s'il n'y a pas une prise de conscience collective, le week-end prochain, nous partons encore à la catastrophe. Mais il est temps aujourd'hui que le gouvernement soit disqualifié et que... Moi, je verrais bien un général De Villiers à la tête du gouvernement. Voilà. Mmh. Un homme de poigne et qui s'entoure de personnes...
De Villiers, vous avez dit ?
Oui, le général. Le général. Mmh. Pas le...
Un militaire ?
Oui, tout à fait.
Mmh. Vous voulez un militaire à la tête du gouvernement et que...
Un militaire, il est plus militaire. Maintenant, il est à la retraite. Donc, il a servi la France sur tout. Il a servi la France, que ce soit de gauche ou de droite. Mm-hmm. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un homme de poigne qu'il faut à la tête du gouvernement.
Et est-ce que le mouvement des Gilets jaunes, qui jusqu'à présent reçoit beaucoup de sympathie de la part des Français dans l'ensemble, reste un mouvement apolitique aujourd'hui ?
Tout à fait. Aujourd'hui, nous écartons tout ce qui est syndicat, nous écartons tout parti politique. Alors nous en avons de gauche, de droite, sur tous les extrêmes, qui essaient d'essayer de s'accrocher à ça. Mais je veux dire, s'ils avaient eu la raison, ces partis-là seraient déjà bien en avant. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Vous allez faire quoi samedi ?
Samedi, nous allons déjà voir le retour que Matignon va nous faire. Mais autrement, je veux dire, c'est un appel encore beaucoup plus important qui est appelé sur les réseaux. Je pense que vous les suivez. C'est blocage des raffineries, blocage des préfectures régionales, blocage des ports. Voilà.
Vous avez, dernière question, Christophe Chalençon, porte-parole des Gilets jaunes dans le Vaucluse. Vous avez les moyens d'empêcher des mouvements de violence ?
Non, nous n'avons pas les moyens. Nous ne sommes pas, comme je le dis, des gendarmes. Nous sommes là pour manifester, le peuple est là pour manifester un mécontentement général. Nous y allons avec nos gilets jaunes et c'est tout. Après, si des casseurs, malheureusement, à Avignon, il s'est passé la même chose. Notre manifestation était déclarée en préfecture, parce que depuis quand même 15 jours, nous avons réuni bon nombre de citoyens vauclusiens autour des points de blocage. Mais la manifestation est partie comme une, voilà, parce que les gens ne sont pas écoutés, ne sont pas entendus, et à un moment donné, ben il y a des gens qui sont vraiment, vous savez, quand vous restez 15 jours sur les points de barrage, sous la pluie, sous le vent, à faire monter la mayonnaise, à un moment donné,
ça part.
C'est tenir toutes ces troupes-là, ça devient compliqué.
Merci pour votre témoignage.
Je vous en prie.
Christophe Chalençon sur Europe 1 ce matin.
Europe 1, il est 7h55.
Derrière les images de violence de ce week-end, beaucoup d'interrogations ce matin. On décrypte, on vous apporte des réponses. Quelles conséquences pour notre économie ? Le Zoom Echo avec Axel de Tarlé, dans un instant.
7h, 9h. Nico Saliagas sur Europe 1.
Il
Il est 7h58, c'est l'heure du Zoom Éco. Nicolas Aliagas avec Axel de Tarlé.
Avec cette réunion de crise ce matin à Bercy pour évaluer les conséquences économiques, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, reçoit les organisations professionnelles à 8h15.
Ben oui, les commerçants sont excédés, hein, et pas seulement à Paris, car les blocages ont lieu partout en France. Alors on parle, les chiffres varient, mais enfin on parle d'un recul des ventes de l'ordre de 30% en plein mois de Noël. Les hôteliers en région parisienne enregistrent, eux, des annulations également de 25 à 30%. Et pour cause, qui a envie de venir passer le nouvel an à Paris sur les Champs-Élysées après de telles images? Les professionnels du tourisme qui se lamentent d'ailleurs de voir que tout le travail pour redorer l'image de la France à l'étranger après les attentats du 13 novembre, tout ce travail est réduit à néant. Mais cette perte d'image, elle ne concerne pas que le tourisme. Vous savez que la France était devenue le pays favori en Europe pour investir. Les investisseurs étrangers voyant la France comme un pays apaisé, vous voyez, à côté du Brexit, un pays où l'on avait entamé des réformes, et bien toute cette image passe à la trappe. Effectivement, il faut reconnaître d'ailleurs que vu l'affaiblissement du pouvoir, ce sera compliqué maintenant pour le gouvernement de faire par exemple la réforme des retraites ou la réforme de la fonction publique. Donc on le voit bien, en tous les cas, c'est bien la triple peine sur le plan économique, avec une incidence négative sur la consommation, la confiance d'investisseurs étrangers et la capacité du gouvernement à réformer.
Merci Axel de Tarlé pour le Zoom Éco.
Et à présent, c'est l'heure de la petite histoire du jour, Nicolas, avec Jean-Philippe Ballas.
Vous savez quoi? Deux images vous ont retenu l'attention ce week-end, mon cher Jean-Philippe Ballas.
Oui, la première pourrait s'intituler « Les cavaliers de l'apocalypse ». Des policiers à cheval en plein Paris, ils sont quatre sur la photo à l'arrêt. On les sent presque calmes à l'affût. Au second plan, on distingue une épaisse fumée noire, des flammes oranges, une lumière de fin du monde, le chaos à quelques mètres. Les chevaux portent des visières de protection comme leurs cavaliers. Cette scène a été captée par un jeune photographe, il s'appelle Mathias Svik. L'autre image que je retiens est beaucoup moins spectaculaire. Elle n'a pas été prise à Paris, mais elle dit beaucoup de choses, elle aussi. Nous sommes à Montbard, en Côte d'Or, un peu plus de 5000 habitants. Dans les rues de la ville, on a accroché les décorations de Noël, vous savez, des joyeuses fêtes qui clignotent. Sauf que si vous levez la tête ce matin, vous verrez d'étranges guirlandes, des dizaines de gilets jaunes suspendus au-dessus du vide ou posés au sommet des sapins. Un jaune fluorescent, forcément, qui se voit de loin.
Jean-Philippe Ballas, la petite histoire pour raconter l'actualité autrement. C'est tous les jours, avant 8h.
Et tout de suite, la météo avec Laurent Cabrol, Nikos.
Eh bien, nous allons résumer la situation. Disons que, hormis sur le bassin méditerranéen, où nous avons un temps sec et, disons, souvent couvert, partout ailleurs, ce sera de la pluie et même parfois des pluies assez violentes, notamment dans l'après-midi sur la région parisienne, et des températures douces entre 15 et 18 degrés.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Et bienvenue en ce lundi 3 décembre et à l'écoute d'Europe 1. Il est 8h01. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Le journal avec David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Trois titres à la une ce matin.
C'est une vague jaune, brutale, violente. Emmanuel Macron, submergé, se retrouve contraint de faire appel aux forces de l'ancien monde. Son Premier ministre reçoit les patrons de partis politiques toute la journée. Dans le quartier de l'Étoile à Paris, c'est la sidération. Les habitants et les commerçants sont toujours sous le choc. Europe 1 sera sur place dans ce journal. Et puis, comment de telles scènes ont-elles pu être possibles? Le ministère de l'Intérieur, la préfecture de police de Paris ont-ils été à la hauteur? Nous tenterons de répondre à cette question.
Europe 1.
Ce sont des images que chacun a toujours bien en tête ce matin. Des scènes d'émeutes, voitures incendiées, boutiques saccagées, des policiers aspergés de peinture jaune, un gendarme passé à tabac. Et tout est filmé, diffusé, en direct et en boucle. Le mouvement des gilets jaunes s'est installé dans la violence, en particulier dans le quartier de la Place de l'Étoile à Paris, où nous allons rejoindre sans plus attendre notre envoyée spéciale Hélène Terzian. Hélène, les habitants et les commerçants sont à la fois sidérés mais aussi inquiets, parce qu'un appel à un acte 4 du mouvement pour samedi prochain a d'ores et déjà été lancé sur les réseaux sociaux.
Oui, David, et cet appel à manifester, eh bien, il n'a pas échappé à Gérard. Derrière le comptoir de son café, il souffle d'ores et déjà de désespoir à l'idée de voir les mêmes scènes de violence devant sa terrasse. Il a d'ailleurs déjà pris ses précautions.
On ferme directement. Triste, c'est désolant et j'ai envie de dire c'est dégueulasse. C'est dégueulasse de voir autant de haine. Et... Non, on bosse. On est face aux événements et on ferme et on passe à autre chose. C'est beaucoup de pertes. On est perdant dans tous les domaines, aussi bien du côté touristes que locaux, surtout locaux, tout le quartier. On travaille avec tous les gens du quartier, ça bloque tout le monde.
Même discours de ras-le-bol quelques mètres plus bas. Frédéric Le Boulanger de l'avenue Kléber a été épargné par les casseurs, mais il craint dans les semaines à venir les répercussions sur son commerce.
Donc je pense qu'il faudrait quand même que ça se calme, que tout le monde se mette autour d'une table pour discuter, parce que ça ne peut plus continuer comme ça. prendre la décision vendredi. Si je protège ou pas mon commerce pour samedi. S'il y a de la casse dans mon magasin, je suis obligé de fermer. Les conséquences sont énormes, quoi. Bah, 20 employés au chômage.
Ce matin, un adjoint à la mairie du 16e arrondissement de Paris était présent dans le quartier pour tenter d'apaiser la colère des commerçants et les rassurer avant l'acte 4 des Gilets jaunes, donc samedi prochain.
Merci Hélène Terzian pour ce reportage en direct. Et parmi donc toutes les images que vous venez d'évoquer, Hélène, il y en a une qui a peut-être frappé les esprits encore davantage que toutes les autres. C'est le saccage de l'Arc de Triomphe, tag à l'extérieur, destructions à l'intérieur et au plus fort du chaos. La tombe du soldat inconnu profané. Alors il était indispensable pour les autorités que le ravivage de la flamme se tienne bien hier soir, comme chaque jour. Pour marquer le coup, le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, ainsi que la secrétaire d'État aux armées Geneviève Darrieussecq étaient présents. Reportage Rémi Bossard.
Quand la cérémonie commence, la traditionnelle musique de la garde républicaine est à peine audible, couverte par le bruit des karchers sous l'Arc de Triomphe. Des hommes en combinaison blanche s'activent toujours pour effacer les graffitis. Mais peu importe, le soldat inconnu peut bien être honoré. C'est l'essentiel pour le général Darry, président du comité de la flamme.
Comme avait dit De Gaulle un certain 18 juin, la flamme de la France ou la flamme de la résistance ne s'éteindra pas. Donc la flamme brûle toujours et c'est bien comme ça.
Juste avant cette cérémonie, il a pu voir à l'intérieur du monument les dégâts causé par les casseurs.
Ça fait de la peine, quoi, parce que ça ne correspond pas à ce à quoi on croit.
Ce en quoi il croit, c'est donc la permanence de cette flamme qui doit représenter le fil ininterrompu de l'histoire, selon Guy Bonhomme, autre membre du comité. Pour lui, ce lieu doit rester à l'écart des enjeux politiques.
Je comprends la colère de ces gens, mais s'attaquer au symbole, non, il ne faut pas. J'arrive pas à imaginer qu'un Français puisse s'abaisser à ce point.
Et sa grande satisfaction, c'est de voir cette fois deux enfants raviver la flamme. Ce sont eux, dit-il, les enfants qui transmettront l'importance de respecter ce lieu, quoi qu'il arrive.
Reportage signé Rémi Bossard.
Et nos auditeurs se posent beaucoup de questions ce matin. Mon cher David, ils l'expriment notamment sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1. Et la question qui revient, c'est comment de telles scènes d'ultra-violence ont-elles pu à nouveau se produire dans Paris ?
Oui, on déplore 133 blessés sur la seule capitale qui s'ajoutent aux centaines d'autres des week-ends précédents. Alors je me tourne vers notre spécialiste des questions de sécurité, Guillaume Bié, bonjour.
Bonjour.
Comment est-ce possible, Guillaume, que les autorités n'aient pas réussi à empêcher que de tels débordements se réitèrent?
Parce qu'un tel niveau de violence imprévue, avec des casseurs qui sévissent à plusieurs endroits, c'est quasi impossible à empêcher. Ce que les forces de l'ordre ont évité, c'est qu'il y ait un nouveau saccage des Champs-Élysées, comme le samedi précédent. Ça a marché. L'avenue et les institutions autour ont été protégées, mais ça a occupé le gros des troupes, avec une priorité, éviter qu'il y ait un mort ou des blessés graves. Après, qu'il y ait de la casse de la part de gens aussi violents, c'est inéluctable.
Mais alors, est-ce que les hauts gradés de la police, de la gendarmerie ont une idée pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas samedi prochain?
Alors, des idées, oui, des schémas tactiques aussi, ils ne vont pas les dévoiler, vous comprenez bien, mais de samedi en samedi, chaque manifestation violente est différente, difficile à anticiper. Et puis, je vais vous dire, même si les autorités bouclaient totalement Paris, ce qui est impossible matériellement, mais les casseurs iraient sévir ailleurs. Ouais. Donc, la parade et la riposte, c'est très complexe.
Et puis, si on bloque tout l'Ouest, c'est la place de la République qui serait prise pour cible.
Exactement.
Bon, merci à vous, Guillaume Bié, pour ces informations.
Quand on écoute les explications de Guillaume Bié, David, on se dit que la réponse ne peut pas être simplement policière, mais qu'elle doit être politique visiblement aujourd'hui.
Oui, et nous sommes d'ailleurs à cet égard à un tournant. Emmanuel Macron, qui ne s'est pas encore exprimé depuis samedi, a demandé à Édouard Philippe de recevoir aujourd'hui tous les responsables des partis politiques du pays. Je parle de tournant parce qu'on avait compris que les partis, les appareils, c'était l'ancien monde, qu'aux yeux d'Emmanuel Macron, rien de bon ne pouvait en sortir. Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1 nous a rejoint. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Alors que se passe-t-il? Est-ce que Aurélie, le chef de l'État, a changé d'avis?
Ah, une chose est sûre, David, appeler l'ancien monde à la rescousse, c'est signe que l'heure est grave. Un ministre me le disait, l'exécutif est comme une poule face à un couteau, bref, démuni devant cette crise, d'où cet acte d'humilité du président qui consiste à faire revenir dans le jeu des corps intermédiaires, en l'occurrence les partis. C'est que pour Emmanuel Macron, il y a urgence à faire redescendre une pression qui se focalise contre sa politique, mais aussi contre lui. Il voulait un rapport direct au peuple. Résultat, il se retrouve dans un face-à-face tendu, sans bouclier, avec une partie de ce peuple, ces Gilets jaunes, qui lui renvoient aujourd'hui en boomerang ces petites phrases sur ceux qui ne sont rien, je traverse la rue, je vous trouve du travail, ou encore les Gaulois réfractaires au changement.
Et c'est Édouard Philippe qui reçoit tout le
c'est
monde
Edouard
aujourd'hui. C'est aussi un moyen de créer un tampon.
Un autre bouclier.
Absolument. Merci Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1.
Et le premier patron d'un parti politique, le patron du PS, Olivier Faure, sera reçu par Édouard Philippe. Ça sera le premier à entrer dans son bureau à Matignon. Il sera aussi avant au micro d'Audrey Crespo-Marat dans notre matinale, Olivier Faure.
J'ajoute qu'Emmanuel Macron a aussi demandé au Premier ministre de recevoir une délégation de Gilets jaunes. Ce rendez-vous-là n'a pas encore été calé. Sachez par ailleurs, Nikos, que les ambulanciers manifestent en ce moment place de la Concorde à Paris. Quelques dizaines de véhicules y sont stationnés et font retentir leurs sirènes.
Europe 1.
À suivre dans le journal de David Doucan, on va essayer de comprendre la violence au plus près. Y a-t-il d'un côté les méchants casseurs et de l'autre les gentils Gilets jaunes ? Apparemment, les choses sont loin d'être aussi manichéennes ou aussi simples. Vous comprendrez juste après ça pourquoi.
Il est 8h10, coup d'œil maintenant à l'international avec Vincent Herouet, Nikos.
Vincent Herouet, on va continuer. Non, c'est
la
suite
du journal.
Vous m'avez embrouillé, Céline.
Je parlais avec Vincent Herouet et du coup, voilà, non, c'est la suite du journal avec
tout
David
va bien,
Doucan.
Tout va bien. La suite du journal, effectivement, avec David. On parlait de la violence tout à l'heure, des gilets jaunes, de ce qu'on a vu dans Paris. Alors, est-ce que c'est seulement le fait des casseurs qui avancent comme des pros? Ils savent exactement ce qu'ils font?
La réponse est non. Il suffit de regarder le profil des personnes gardées à vue depuis dimanche. Il y a bien sûr les casseurs professionnels, mais aussi des hommes, trentenaires, originaires de province, sans antécédent judiciaire ni appartenance politique connue. Alors qu'en est-il au sein du mouvement Gilets jaunes? La plupart condamnent le recours à la violence, mais ils sont de plus en plus nombreux à considérer que ce n'est qu'ainsi qu'ils peuvent être entendus. Écoutez bien ce reportage réalisé par Kevin Tullier à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais.
Assis sur des bancs en bois aux abords d'un rond-point, les Gilets jaunes de Saint-Omer programment leurs différentes actions de la semaine. S'ils ont abordé entre eux les violences à Paris, ils préfèrent se concentrer sur leur mouvement.
Vous voyez, déjà ici, on a un petit souci à régler. On ne peut pas être responsable de tout le monde. Les gens peuvent fêter les câbles comme ça. Bon, maintenant, à Paris, c'est Paris. Mais il faut se rappeler que la France, ce n'est pas que Paris.
Les dégradations sur l'Arc de Triomphe ont choqué la plupart des Gilets jaunes. Mais hors de question pour cet ancien syndicaliste de condamner les casseurs. Pour lui, la violence peut être un moyen de faire plier le gouvernement.
J'incite les Français à se révolter, vous entendez ? À se révolter. Il faut amplifier le mouvement, avec violence comprise. Il n'y a que comme ça que le gouvernement va plier.
S'il aurait plutôt à la mesure aux actions pacifistes pour la majorité des Gilets jaunes de Saint-Omer, ils craignent un durcissement du mouvement dans les prochains jours.
Qu'est-ce qui va se passer? Même nous, on se pose la question. Comment ça va finir? Soit on va s'essouffler dans le temps, et c'est ce qu'ils attendent. Mais comme on est tous motivés et remotivés, les rivalités vont se faire. Mais nous, ici, on n'a pas cette mentalité-là, du moins pour l'instant. On reste encore pacifique, mais la pression monte.
En attendant une réaction du gouvernement, les Gilets jaunes de Saint-Omer ont construit deux grandes cabanes à 200 mètres d'une barrière de péage d'autoroute. Ils se disent prêts à prolonger le mouvement dans la durée.
Reportage passionnant de Kevin Tullier réalisé à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. C'est intéressant ce qu'on entend quand même, qu'il y a une violence, y compris chez les Gilets jaunes. Alors concluons ce journal avec un mot de football. C'est le Ballon d'Or ce soir qui sera remis. Est-ce que Griezmann, Mbappé ou Varane pourraient peut-être l'obtenir? Ils ne sont pas favoris, si j'en crois nos spécialistes ici à Europe 1. Sachez par ailleurs que le Paris Saint-Germain a subi hier soir un coup d'arrêt. Un match nul de partout à Bordeaux qui met fin à une série de 14 victoires en 14 journées de Ligue 1.
Merci David Doucan, c'était le journal de 8h sur Europe 1.
La matinale d'Europe 1.
Nico Saliagas.
Et maintenant j'en suis sûre, coup d'œil à l'international avec Vincent Herouet, Nikos.
Tout va bien, on va continuer à décrypter les conséquences de ce week-end de chaos. La presse internationale, très impressionnée par la violence samedi à Paris.
Oui, Vincent. Paris, reine du monde. Sur toutes les chaînes d'infos, à la une de tous les sites européens, gilets jaunes, c'est facile à traduire. Comme une révolution de couleurs. Depuis 1968, en fait, les pavés qui volent font un cliché et l'enragé face au CRS sur fond de barricades en feu. C'est de l'art pompier. Les gilets sont phosphorescents et ils sont photogéniques. Autre académisme, le peuple rebelle, les coupeurs de tête toujours prêts à tuer le père et aussi la reine et à incendier les Tuileries. Le pays du luxe qui s'attaque soudain aux voitures de luxe, aux boutiques de luxe, d'où le vocabulaire qui dramatise, scène de guérilla urbaine, climat d'insurrection, zone de guerre des confrères étrangers, alors qu'ils n'ont pas vu une flaque de sang, ni une arme à feu, qu'ils ont travaillé tranquillement, sans même une coupure de courant. On n'est pas à Mossoul, on est à Paris. Mais justement, 30 millions de touristes y passent chaque année et tous identifient l'Arc de Triomphe, c'est pas Notre-Dame-des-Landes. Même dans le smog des lacrymogènes, même sous les tags, c'est la France, cette porte glorieuse qui ouvre sur le vide, cette tombe en haut des Champs-Élysées. Alors Die Welt parle d'escalade et le Corriere della Sera se demande même « Paris brûle-t-il ?»
Pourquoi les confrères étrangers font des raccourcis? Comment est-ce qu'ils expliquent cette violence?
La contre-offensive des manifestants qui oblige les CRS à se replier a été vue dans le monde entier, mais plus ils en causent, ou plus ils en parlent, moins ils en causent, moins ils ont quelque chose à dire là-dessus. Fox News parle des gilets jaunes comme si c'était les casquettes rouges qui ont fait élire Donald Trump. Et quand le Washington Post explique que les Français se retournent contre leur président au bout d'un an toujours, eh bien, on comprend que le rédacteur commente encore les élections du mid-term. Quand la presse canadienne avance que les élites urbaines veulent imposer leur utopie aux déclassés du monde rural, eh bien, le message s'adresse à l'évidence à Justin Trudeau. À Clichy-sous-Bois, en 2005, à Villiers-le-Bel, en 2007, la presse étrangère avait fait aussitôt et de manière très forte le procès de l'intégration à la française. Visiblement, la fracture ethnique est beaucoup plus évidente à expliquer et à commenter que la fracture sociale.
Vincent Hervouette, tous les jours sur Europe 1 pour décrypter l'actualité internationale.
Europe 1, il est 8h15.
Audrey Crespo-Mara, bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Vers 10h, je crois, le patron du PS va être reçu à Matignon.
Et oui, il sera le premier chef de parti de l'opposition reçu aujourd'hui par Édouard Philippe à Matignon. Que dira-t-il au Premier ministre? Olivier Faure, premier secrétaire du PS, sera mon invité.
A tout de suite.
7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Il est 8h18, Nikos Aliagas.
Le premier secrétaire du Parti Socialiste, député de Seine-et-Marne, Olivier Faure, et votre invité Audrey Crespo-Mara.
Bonjour Olivier Faure.
Bonjour.
Vous êtes le premier chef de parti de l'opposition reçu aujourd'hui par Édouard Philippe à Matignon à 10h. Vous y allez pour l'engueuler ou pour lui tendre la main?
J'y vais pour essayer de répondre aux Français. Je ne me substitue pas aux Gilets jaunes qui vont continuer à manifester, mais je souhaite que le monde politique auquel j'appartiens cherche des solutions pour leur répondre.
Mais vous savez que l'expression fétiche du Premier ministre, c'est « garder le cap », vous allez lui demander de changer de cap?
Eh bien, s'il ne change pas de cap, nous passerons nous aussi à la vitesse supérieure, parce qu'il y a un moment où ça suffit et où il faut que le pouvoir réponde. Il ne peut pas rester droit dans ses bottes. Il ne peut pas, comme il l'est depuis de longues semaines, complètement sourd à la colère qui monte. C'est un soulèvement.
En même temps, le Parti Socialiste ne représente plus grand-chose. Quel est votre moyen de pression aujourd'hui?
Mais c'est simple. Si le débat n'a pas lieu, si nous ne pouvons pas obtenir des états généraux qui permettent de revenir sur la question du pouvoir d'achat, sur la question de la fiscalité, sur la question de l'environnement et donc son financement...
C'est ce que réclamait la CFDT il y a 15 jours. Hein.
C'est ce que nous réclamons nous-mêmes depuis plusieurs semaines, même avant la CFDT, mais peu importe. Effectivement, dans ces cas-là, nous passerons à la vitesse supérieure. Et la vitesse supérieure, c'est quoi? C'est tout simplement que nous répondrons à la demande faite notamment par le Parti communiste, qui est d'aller déposer une motion de censure. Parce que nous ne pouvons pas accepter que rien ne change, que rien ne bouge.
Donc vous vous joindrez aux communistes pour cette motion de censure qui amènerait le gouvernement à démissionner, donc,
si rien n'était adoptée. Si rien ne bouge. Effectivement, nous provoquerons le débat à l'Assemblée. Nous ferons en sorte que les parlementaires ne soient pas, comme c'est le cas aujourd'hui, l'arme au pied, parce que nous sommes dans une situation incroyable. Voilà que le pays, en réalité, est à, j'allais dire à feu et à sang, n'exagérons pas, mais enfin, en situation quasi insurrectionnelle depuis le week-end dernier. Et à l'Assemblée, nous parlons de tout, sauf de cela. Et donc, il faut effectivement que ce débat-là soit pris en charge par les responsables politiques que nous sommes.
Donc, la première étape, c'est d'aller voir Édouard Philippe à Matignon. La deuxième étape, c'est de demander sa démission, clairement.
Non.
Si une motion de censure, ça amène le gouvernement à démissionner si elle est adoptée.
Malheureusement, j'imagine que la majorité restera la majorité. Moi, ce que je vois, c'est qu'il faut un débat parce qu'il faut changer de cap. Il faut changer de cap maintenant. C'est une politique qui est en train d'échouer et qui n'a plus le sentiment des Français. La promesse d'Emmanuel Macron l'an passé, c'était de rassembler à nouveau les Français, de faire en sorte que celles et ceux qui, jusqu'ici, ne s'étaient pas trouvés dans les partis politiques, puissent enfin être fédérés par un projet. Il a échoué. Et donc, il faut maintenant changer de cap, il faut changer de méthode.
Alors, changer de cap, Olivier Faure, vous allez cette semaine aussi déposer une proposition de loi. Ce n'est pas une proposition de loi, c'est une proposition d'annulation, carrément, de 18 mois de Macron.
Nous allons effectivement faire des propositions pour essayer d'avancer et faire en sorte que, même si elles ne seront pas exhaustives et même s'il y a certainement d'autres sujets sur lesquels il faudra avancer, nous voulons effectivement revenir sur les points saillants de cette politique qui... ne convient pas, ne correspond pas. Vous vous rendez compte quand même
qu'on
demande...
C'est-à-dire, très clairement, vous demandez qu'ils reviennent sur la suppression de l'ISF, qu'ils reviennent sur la hausse de la CSG, qu'ils réindexent les pensions de retraite. Donc en fait, vous ne réclamez pas la démission d'Emmanuel Macron, mais vous voulez qu'il annule toutes les lois votées depuis le début de son mandat.
Non, mais en tout cas, celles qui sont effectivement aujourd'hui mises en cause par le mouvement, oui. Parce que comment voulez-vous faire comprendre à quelqu'un qui n'arrive plus à faire son plein que pendant ce temps-là, on continue à accorder des cadeaux incroyables à des gens qui roulent carrosse ou plus exactement ont un yacht quelque part amarré? Ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas demander aux uns des efforts et aux autres les exonérer de toute forme d'efforts.
Mais Olivier Faure, déposer une proposition de loi qui n'a aucune chance d'être adoptée, est-ce que ça a vraiment un sens, franchement?
Mais bien sûr que ça a un sens. Aujourd'hui, il faut faire avancer les choses et il faut le faire aussi parce que nous avons aussi un dialogue avec l'opinion et qu'il faut qu'elle comprenne qu'elle est soutenue, qu'elle n'est pas simplement face à un mur avec un monde politique qui serait complètement sourd à ses revendications. Oui, il faut effectivement donner des signes parce que ce sont des Français qui sont aujourd'hui humiliés par un pouvoir qui ne veut pas entendre.
Alors Olivier Faure, Édouard Philippe a longtemps été le bras droit d'Alain Juppé. Vous trouvez qu'il lui ressemble ?
Ah bah écoutez, dans le côté droit dans ses bottes, oui, ça se pose là.
En décembre 1995, Juppé a dû renoncer à une partie de son plan de retraite face à l'ampleur des manifestations. Ce sera la même chose avec Édouard Philippe, vous pensez ?
Je le souhaite. Je le souhaite ardemment parce que nous sommes dans une situation qui est une situation qui ne peut pas durer. Nous avons eu 2 samedis noirs. Est-ce que vous voulez vraiment qu'on en vive un 3e, un 4e, un 5e ? Jusqu'à quoi ? Il y a déjà eu 3 morts dans ce mouvement. 3 morts. Et donc, est-ce qu'on veut vraiment que... il y a des échauffourées partout.
C'est pas seulement
Paris,
justement.
C'est aussi la province désormais. C'est quand même une situation qui est alarmante.
Est-ce que comme Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, vous vous êtes dit que le gouvernement et le ministre de l'Intérieur avaient mal fait leur travail samedi ?
En tout cas, le résultat, c'est que ça n'a pas été tout à fait à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer. Donc
Christophe Castaner et le gouvernement ont mal fait leur travail, ce que vous dites ?
Oui, je pense que le travail n'a pas été bien fait. Je pense surtout que nous sommes dans une situation où le travail ne peut pas être bien fait parce que ce qu'il faudrait décréter plutôt que l'état d'urgence sécuritaire, c'est un état d'urgence social et environnemental et ne pas opposer l'un à l'autre comme ils le font depuis malheureusement plus d'un mois.
Olivier Faure, François Hollande a apporté son soutien aux Gilets jaunes. Ça prouve qu'il est cynique ou qu'il est redevenu socialiste ?
Ça prouve qu'il essaye d'entendre lui aussi les Français qui manifestent.
Ah bah vous êtes bien gentil avec lui, non ?
Je suis...
Vous ne pensez pas qu'il a oublié qu'il était président il y a 18 mois seulement et qu'il a même été dans l'impossibilité de se représenter ?
Écoutez, moi ce que je vais vous dire, c'est que effectivement, ce qui se passe aujourd'hui a des racines qui sont profondes et dont nous ne pouvons pas nous exonérer. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas entendre ce qui se passe aujourd'hui. Mais ça veut dire aussi qu'il faille réviser parfois ce que nous avons commis nous-mêmes comme erreur. Par exemple, je prends l'exemple du CICE, qui a été un allègement de charges pour les entreprises, mais sans condition. Moi, je souhaite aujourd'hui que nous réfléchissions à sa conditionnalité, que nous puissions faire en sorte, par exemple, que ça crée une obligation de négocier année après année, entreprise par entreprise.
Que le CICE soit plus contraignant, clairement, pour qu'il y ait des embauches.
Plus contraignant, pour qu'il y ait des embauches, pour qu'il y ait des augmentations de pouvoir d'achat, pour qu'on sache, entreprise par entreprise, où est-ce qu'on met l'argent. C'est de l'argent public. Et donc, cet argent, il doit servir désormais à donc, une négociation qui permette de redonner du grain à moudre dans les entreprises parce que la question du pouvoir d'achat, elle est centrale.
Et François Hollande, j'y reviens d'un mot, pardon, mais il devrait peut-être faire profil bas aujourd'hui, non ?
François Hollande fait ce qu'il veut. Moi, ce que je vous dis, je vous parle au nom du Parti Socialiste. Et je vous dis que... Dont il fait partie. Mais François Hollande n'est pas l'expression unique du Parti Socialiste. Et moi, ce que j'essaie de vous dire ce matin...
Il est encore un peu trop présent.
Non, ce n'est pas ça. Je dis simplement que ce matin, ce que je vous dis, c'est que nous avons nous-mêmes à avoir un regard rétrospectif sur ce que nous avons fait et que ça suppose aussi que nous évoluons et que ça ne peut pas être simplement une contestation des autres. Et donc, de ce point de vue, moi, je suis prêt à faire des propositions, je suis prêt à avancer, je suis prêt à entendre.
Et ce sera dans une heure et demie à Matignon.
Ce sera dans une heure et demie et dans les jours suivants parce que ça ne s'arrêtera pas là.
Merci Olivier Faure.
C'est l'interview politique avec Audrey Crespo-Mara tous les jours sur Europe 1, 8h15.
Europe 1,
il est 8h26.
À suivre la revue de presse avec David Abiker, Ballon d'or, Gilet jaune, un air de révolution. 8h45, le Ballon d'or de l'imitation. Monsieur Canteloup et la revue de presse qui est Julie. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Presse de David Abiker, mais tout de suite la météo avec Laurent Cabron-Nikos.
L'actu est un peu rude hein, ce matin, évidemment, et tout le monde est un peu sonné, mais
La douceur nous vient du côté des températures.
Voilà, on pourrait titrer cette matinale « Seules les températures sont douces ». C'est un peu ça, parce pas que mal. Franchement, voilà. Nous avons des valeurs en ce moment de 11 à 15, et dans la journée entre 14 et 21, vous voyez que ce sont vraiment des températures très douces, 14 à Limoges, 15 à Nantes et Paris, 15 à Lyon, 16 à Nice et Clermont-Ferrand, 18 à Marseille, etc. Je ne peux pas citer tout le monde, mais sachez qu'entre la fourchette est quand même très, très courte, très petite, entre 14 et 18 degrés. La pluie sera là, peu ou prou, pour tout le monde, excepté sur le littoral méditerranéen et sur le piémont pyrénéen. Mais partout, il pleuvra, alors plus ou moins. Sur Paris, sera surtout cet après-midi avec quelques orages. Sur Lyon, sera également cet après-midi sans orage ou presque pas. Et puis, dans les autres régions, des pluies fréquentes, Lorraine, Alsace, Poitou-Charente, Limousin, enfin bref, vous aurez tous de quoi prendre votre parapluie aujourd'hui. Le PPO s'impose à tous. Voilà.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
7h, 9h, Nico Saliagas sur Europe 1.
Excellente matinée à tous. En ce lundi 3 décembre, nous sommes avec vous. Si vous partez au travail, si vous êtes encore à la maison, et profitez-en pour écouter la revue de presse avec David Abiker tout de suite, Nikos.
Bonjour David Abiker.
Bonjour Nikos, bonjour Céline et bonjour à tous. Ce matin bonjour. Dans la presse, il y a deux papiers qu'il faut lire en gardant en tête les événements du week-end. Deux papiers. Le premier papier s'appelle Un air de révolution et c'est à lire dans L'Équipe. L'Équipe qui nous explique que la cérémonie du Ballon d'Or ce soir au Grand Palais à Paris, à 150 mètres des Champs-Élysées, marque la fin d'une époque dominée par le Portugais Ronaldo et l'Argentin Messi. 5 fois titrés l'un et l'autre. Le Ballon d'Or remis ce soir marquera une rupture avec le monde d'hier, annonce L'Équipe, d'où un air de révolution. Pas révolutionnaire du tout en revanche, mais navrante. Nice Matin raconte comment s'est terminé un match de 4e division hier entre deux équipes seniors. Un des joueurs est exclu par l'arbitre en cours de match. Le joueur lui fracture le nez d'un coup de tête en fin de partie. Eh bien, l'actualité du jour ressemble à ça ce matin. Une nouvelle génération qui prétend au Ballon d'Or, comme ces gilets jaunes qui bousculent les titulaires d'un pouvoir presque déjà vieux, et une manifestation sportive gâchée par la violence, comme la manifestation d'hier aux Champs-Élysées.
Et dans la presse, comme à l'Élysée ce matin, chacun se demande où est la porte de sortie.
La sortie de crise, évidemment. Macron à la recherche d'une sortie de crise, c'est Les Échos. Macron cherche l'issue, c'est le Télégramme. Il y en a plein comme ça dans la presse ce matin. En attendant les solutions que tous les éditorialistes exigent, sans les énoncer vraiment, comme d'habitude, on lira Le Progrès et le témoignage de Yassir Atala. Il ne vit pas à Paris, lui, il gère une supérette à Saint-Étienne dans le quartier de la Très-Fleurie. Et il a été vandalisé samedi soir par des casseurs qui se sont greffés sur le mouvement local des Gilets jaunes. Voilà ce qu'il dit, Yassir. « J'ai fui mon pays à cause de la guerre. Hier, j'ai eu l'impression que c'était la guerre comme à Mossoul. Sa supérette a été pillée, il estime les dégâts à 100 000 euros. Une ambiance de guerre, rien que ça. Et le maire de Saint-Étienne est aussi de cet avis qui estime que l'intervention de l'armée aurait été nécessaire. On lira aussi, enfin, dans Le Progrès, l'histoire édifiante de Vanessa, 40 ans, gilet jaune et mère de famille montée samedi à Paris pour manifester avec son mari, Philippe. Celui-ci a pris un projectile en pleine poitrine vers 11h aux abords de l'Arc de Triomphe. Pour ce couple venu du Rouennais, équipé de masques à gaz et de bonnes intentions, la journée de samedi s'est terminée aux urgences de l'hôpital Foch où Philippe a failli perdre un poumon. Alors à ceux qui chercheront aujourd'hui une sortie de crise, ministre, chef de parti ou gilet jaune, ils pourront se demander pourquoi Vanessa entend revenir dès samedi prochain à Paris, malgré un Marie à l'hosto et 4 enfants à la maison. Ça s'appelle la rage de continuer, c'est elle qui le dit.
Ailleurs dans la presse, on parle des écrans, on parle d'astéroïdes et de fin du monde, David.
Ceux qui ont passé le week-end les yeux rivés sur les chaînes d'infos, vous en êtes et j'en suis en continu, ou leur smartphone pourront lire le journal de Saône-et-Loire, parti à la rencontre de Nathalie, qui a supprimé console, écran et télé les jours où son fils est né de 4 ans à école. Résultat, il est plus calme, plus social et joue davantage avec son petit frère. Les résultats de l'étude Twang, menée auprès de 40 000 enfants, confirment. Trop d'écran, c'est moins de sociabilité et moins de maîtrise de soi. Les adultes sont-ils concernés par les effets des écrans sur leur manière de voir le monde et de vivre ensemble ? L'étude ne le dit pas. Et puisque je vous parle du fin du monde, jetez un œil aux Parisiens aujourd'hui en France qui évoquent la sonde américaine qui arrive aujourd'hui sur Bennu, à l'astéroïde qui pourrait heurter la Terre en 2175 ou en 2196. Elle ne fera que nous frôler en 2029, ça suffit pour réfléchir à la fin du monde. ou à cette nouvelle forme de troubles sociaux que le Rassemblement national, qui leur a consacré un colloque samedi à l'Assemblée, appelle l'ensauvagement de la société. Eh bien, les survivalistes, ces gens qui pensent que l'apocalypse est pour bientôt, ils s'y préparent à l'ensauvagement et à la fin du monde avec Survival Magazine. Sur la couverture du numéro de décembre-janvier 2019, une femme vêtue d'une doudoune jaune. Et ce titre, la survie hivernale. De quoi intéresser les gilets jaunes qui campent sur les ronds-points et le gouvernement qui campe encore sur ses positions. Pour terminer, pas de gilets jaunes, mais ce week-end à Albi, le championnat du monde du pull moche nous raconte ce matin le Mille à Voix, journal en ligne de Milo en Aveyron. Près de 300 compétiteurs avec sur le dos des pulls d'une mocheté de très haut niveau. Une mocheté technique. C'est l'Aveyronais Pascal Marty qui l'a emporté grâce à un pull tricoté par sa grand-mère en 1982, associé à une peau de renarde chassée par son grand-père en 1946. Le jury a été séduit autant par la laide que par la qualité des matières utilisées.
La revue de presse avec David Abiker.
Il faudra faire un concours de pulls moches à la rédaction, ça nous changera les idées.
Le vôtre est très bien, couleur Bordeaux. Hein, c'est tous les jours à 8h30 la revue de presse.
Europe 1.
Et 8h36.
À suivre, c'est votre journée. On va passer un coup de fil à Laurent Delahousse. Le journaliste du 20h de France 2 signe un film documentaire pour raconter l'immense Jean d'Ormesson. Ça s'appelle Monsieur. Ça sort mercredi au cinéma. On en parle dans un instant. 8h45, l'immense, mais dans un tout autre registre. Monsieur Canteloup sur Europe 1 avec Julie pour la revue de presse. Le débrief du week-end sera très assaisonné, je pense. À tout de suite.
7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
Édouard Philippe reçoit en ce moment Anne Hidalgo, la maire de Paris, après les violences sans précédent de samedi dans la capitale. Le Premier ministre qui va s'entretenir tout au long de la journée avec les représentants des partis politiques et sans doute demain avec les Gilets jaunes. Le pouvoir doit répondre, il faut changer de cap maintenant. C'est ce que nous a dit ce matin le patron du Parti Socialiste, Olivier Faure, au micro d'Audrey Crespo-Mara sur Europe 1. Après les violences, 378 personnes ont été placées en garde à vue. Des comparutions immédiates vont se dérouler dans l'après-midi. Dans l'actualité également, la colère des ambulanciers, place de la Concorde à Paris, plusieurs centaines de véhicules. Ils protestent contre la loi des finances 2019 et la remise en cause des conditions de transport sanitaire.
Europe 1.
Nico Saliagas, c'est votre journée.
Bonjour Laurent Delahousse.
Bonjour Nikos.
Ce mercredi 5 décembre, vous présentez votre premier film en tant que réalisateur dédié à Jean d'Ormesson que vous avez suivi lors de ces derniers mois de vie, ces dernières années. Vous avez commencé à le filmer quand ?
Oh, il y a 3 ans en fait. C'est Jean qui un jour m'a appelé et il m'a dit « Vous m'avez parlé d'un documentaire il y a quelques temps et maintenant je pense que c'est le moment ». Donc effectivement, ça date et en même temps c'est encore très proche de moi.
Il sort le jour de sa disparition. C'est un symbole ?
Oui, c'est forcément un symbole, parce que le distributeur a voulu choisir une date qui faisait écho pour ceux qui l'aimaient, pour ceux qui aimaient le lire, pour ceux qui aimaient le retrouver à la télévision, dans des émissions. Il était devenu une sorte de totem, comme ça, de figure mythique, un mythe social, un mythe national.
Dans votre film, on découvre un Jean d'Ormesson fin d'esprit, solaire, malicieux, qui parle de tout, hein, de ses parents, de son père, de sa relation difficile, et en même temps très ému de parler de son père. Il est hédoniste. Et puis il y a en surimpression le commentaire de celle qui fut sa secrétaire, celle qui tapait, qui rédigeait sur l'ordinateur ses manuscrits, Dominique. Et là, vous arrivez à mettre de l'humour, en fait, dans l'histoire.
Oui, parce qu'elle était un personnage qui était devenu finalement incontournable, parce qu'il fallait quelqu'un en contrepoint. En fait, Dominique, c'est nous. Elle travaillait 30 ans avec Jean, elle le connaît parfaitement, elle l'aime, et elle nous apporte un regard un peu, on va dire, un peu plus décalé sur le personnage. Elle nous met un peu de distance par rapport à ce qu'il nous raconte.
Grâce à votre métier de journaliste, d'abord, mais ensuite aussi d'animateur, de réalisateur de documentaires, vous faites des rencontres enrichissantes. Celle-ci aura changé votre vie, au fond de vous ?
Oui, elle aura changé quelque chose parce qu'il avait en lui cette foi en l'espérance. C'était l'anti-mélancolie, Jean d'Ormesson. Et on peut dire que ma nature était peut-être un peu parfois en opposition à la sienne. Et d'abord, je n'étais pas toujours d'accord avec lui sur beaucoup de choses. Et sur ça, il arrivait à inoculer en moi souvent cette soif de vivre. Ça peut paraître impensif aujourd'hui, parce que tout le monde dit oui, il était solaire. Il avait fait de cela une philosophie. Il a même sacrifié une partie de sa vie et de son travail au plaisir. Et il le reconnaissait en disant « Finalement, je ne suis peut-être pas devenu un grand écrivain parce que je n'ai pas assez souffert. »
Je dirais malgré tout que cette vie fut belle.
En tout cas, vous avez fait un très joli film, Laurent Delahousse, qui sort ce mercredi en salle. Ça s'appelle sobrement Monsieur, un film dédié à Jean d'Ormesson. Et cette musique de Julien Doré qui vous accompagne tout au long de ces 1h30 de documentaire, d'entretien et de vie, celle d'un grand auteur. Merci, Laurent Delahousse.
Merci, Nico. À bientôt.
Europe 1.
Il est 8h42 à suivre, Nikos Aliagas. À si l'arrivée imminente de la fusée Canteloup.
J'ai pas le temps de le dire. Si je vous dis que c'est plus qu'un humoriste, mais celui qui fait rire nos consciences, et de façon consciente et totalement déjantée. C'est Nicolas Canteloup qui arrive. Attention aux turbulences.
7h, 9h. Nikos Aliagas sur Europe 1. Europe 1.
Il est 8h45.
Il arrive à toute berzingue. Le voici, Nicolas Canteloup et Julie, la revue de presse.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on commence avec le rappel du titre principal de l'actu. Nikos, vous voulez bien ?
Allez, oui, allez. Oui, salut, c'est Nikos, journalisteur, intervieweur, vous l'avez entendu, photographeur, présentateur, animateur, mais surtout imitateur de Robert De Niro. You are talking to me. Oui, c'était il y a une petite heure.
Ah bon, l'actu
avec Hélène Zélani, oui, je plaisantais.
Voilà, l'actu surround du morning, c'est bien sûr Édouard Philippe, pour devenir plus sérieux, qui va recevoir Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Laurent Wauquiez à Matignon. Voilà, il fallait le dire au cas où ce matin, vous pensiez passer un mauvais lundi. Il y en a pour qui c'est pire. À noter les 378 personnes placées en garde à vue, mais toujours pas Patrick Balkany, comme quoi la police a été vraiment débordée. À vous, Julie.
Allez, on poursuit avec les scènes de chaos hein, de vendredi, des lieux symboliques comme l'Arc de Triomphe ont été vandalisés, Stéphane Bern. Alors vous qui êtes en charge du patrimoine, vous devez être effondré.
Hein. Oh oui, je suis colère, je fais tellement d'efforts pour le patrimoine, je suis courroux. Oh le vilain week-end pour le patrimoine. Oh oui, ma Julie, mon Nico, je me suis fait éclater l'Arc de Triomphe sous les caméras, je me suis fait calciner le platane, je me suis fait démonter l'étoile. C'est intolérable.
Oui, mais ça doit être douloureux pour vous.
Hein. Oh oui, à qui le dites-vous ?
Je ne sais pas si c'est le bon terme. Il va falloir des jours pour tout remettre en ordre, surtout, hein, cher Stéphane.
Oh, mais ne m'en parlez pas, j'ai passé mon dimanche à nettoyer, balayer, astiquer, casam, pas du tout pimpant. Oh non, je l'ai dit à Emmanuel, je rends mon tablier, je rends mon balai, je rends mon instincteur, je n'en puis plus.
Eh ben, bon courage quand même, Stéphane, on pense à vous. Emmanuel Macron s'est rendu à l'Arc de Triomphe hier pour se rendre compte des dégâts. Il a convoqué Édouard Philippe et Christophe Castaner le matin plus tôt. Bonjour Monsieur le Président.
Bonjour. Oula. À tous et toutes, à celles et ceux et celles, toutes et tous. C'est intolérable. Ce que j'ai vu ce week-end est intolérable.
Vous parlez des scènes de violence autour de la place de l'Étoile, hein, c'est ça ?
Non, pas du tout. Ah. Je vous parle de mon petit déjeuner d'hier.
Quoi ?
Face à Christophe Castaner. Mettez-vous à ma place, j'arrive de Buenos Aires épuisé. Je peux pour une fois brancher avec Brigitte. Eh bien non, je me taque Castaner en calcif avec ses cripsprolls dès 8h du matin chez WAM.
Oh,
donc je le dis solennellement au casseur, ça... Je ne vous le pardonnerai jamais.
Oh, s'il vous plaît. En tout cas, vous l'avez dit hier, vous ne reculerez pas devant la violence.
Oui, jamais. Car la violence est insupportable. Donc je le dis aux casseurs, nous allons vous défoncer. Oula. N'est-ce pas, Jean-Michel Apathy?
Je suis énervé. Et je le dis maintenant solennellement, il faut ouvrir la boîte à gifles avec tous les manifestants violents. Vous vous rendez compte que la tombe du soldat inconnu a été profanée? Car c'est bien connu, le soldat inconnu, en 14-18, il avait voté Macron dans sa traction avant. Il n'avait même pas sous le siège de gilet jaune. Bravo les gars, bravo les intellos.
Alors, Monsieur Macron, la difficulté, Christophe Castaner le précisait, c'est de faire le tri entre l'immense majorité des gilets jaunes qui défilent, on va dire, pacifiquement, et les casseurs en gilets jaunes.
Ça, enfin, oui, c'est toute la difficulté de mon casta, mon rentemplant. Il a du mal à faire le tri, pourtant. Quand vous voyez un gars en gilet jaune avec un masque à gaz, une barre de fer de 2 mètres, 4 bidons d'essence, 5 briquets devant une Twingo en flammes, vous vous doutez qu'il n'est pas en train de changer une roue.
Ah, c'est pas faux, merci. Et bon courage à vous aussi, hein, monsieur le président.
Merci.
Cela fait 3 semaines, 3 samedis que les mêmes scènes se reproduisent. La seule différence, c'est qu'elles empirent. Hein. Le samedi, c'est le chaos et le dimanche, c'est le grand nettoyage. Bonjour, madame Hidalgo.
Oui, bonjour. Bonjour. Oui, on a cette chance formidable. C'est que le casseur n'est pas du dimanche, le petit feignant.
Alors, comme je le disais, ce sont des scènes qu'on ne doit pas revoir. C'est pas normal que les choses se passent ainsi en plein Paris.
Je vous l'accorde, chère Julie Leclerc. Je vois que vous avez une vraie conscience politique. C'est vrai qu'on a un peu tâtonné au début, mais bonne nouvelle, nous avons mis en place une organisation sur la semaine. Donc désormais, le calendrier est le suivant. Dimanche, on nettoie. Le lundi, on reconstruit. Mardi, on remplace les vitrines de ci, de là. Le mercredi, on repeint les murs tagués. Le jeudi, on fait les finitions. Et le vendredi, Paris est magnifique. Paris est, si j'ose dire, nickel. Paris est prête à être vandalisée à nouveau le samedi.
Oh, mais arrêtez, c'est une catastrophe hein, pour nous tous, pour les non-violents. C'est une catastrophe aussi pour les touristes. Hein.
Ça oui, amis touristes, si vous venez visiter Paris... Welcome, mais ne venez que le vendredi, le reste du temps c'est pourri.
Merci pour votre franchise, madame Hidalgo.
Vous en prie.
Allez, on va recevoir maintenant notre ministre de l'Intérieur. Il était temps, hein. On va accueillir donc Christophe Castaner. Bonjour, monsieur Castaner.
Oui, bonjour.
Christophe Castaner, vous étiez sur le terrain samedi.
Vous pouvez arrêter cette musique un peu ridicule par le temps qui court.
Alors, vous étiez sur le terrain samedi. Hein.
Oui, tout à fait. C'était de mon devoir, je le crois, d'être sur le terrain. Mm-hmm. J'ai apprécié ce baptême du feu, même si c'est un baptême qui se renouvelle pour la troisième fois. J'étais équipé lourdement. J'avais, vous l'avez noté, chargé ma lance à eau. Et j'avais sur moi mon propre pistolet à eau, mon arme de fonction. J'ai passé mon samedi. Asperger les casseurs.
Alors concrètement, on fait quoi avec les casseurs ?
Bien écoutez, on l'a vu, on les mouille.
Pardon ? Non mais attendez.
Oui mais c'est, vous savez, c'est très réfléchi, on les mouille. Et comme il ne fait pas très chaud en ce moment, il fait même frisquer, oserais-je dire, comme dit M. Cabrol, les casseurs prennent froid. Puisqu'ils se baladent les cheveux mouillés. Résultat, ils ont le nez qui coule et ils sont malades, combien ? 3, 4 jours, parfois même 5 jours. Bon, le problème, c'est qu'un rhume ne dure que 5 jours.
Bah oui, alors.
Écoutez, ensuite, ces couillons sont à nouveau en pleine forme le samedi suivant.
Eh ben tiens.
C'est mais toute alors... la difficulté de notre mission.
Mais Christophe Castaner, les casseurs, vous les arrêtez aussi ?
Tous les samedis. Nous les arrêtons tous les samedis avec la plus grande fermeté. Puis ensuite, on les relâche puisque nous sommes dans un état de droit. Mmh. Après, ils recommencent, du coup, on les rarrête avec la plus grande fermeté, je dois le dire. Puis on les re-relâche puisque nous sommes dans un état de droit. Du coup, ils re-recommencent. Ouais. Alors nous, on les re-rarrête avec la plus grande fermeté. Puis on les re-relâche. Du coup, ils re-recommencent. Hein, c'est bien cet ordre-là, monsieur Apathy.
Oui, c'est ça. Exactement ça. Vous les arrêtez avec la plus grande fermeté. Du coup, vous les, vous les re-relâchez derrière et on passe pour des cons avec la plus grande régularité. Faut pas me chauffer ce matin. La violence, ça me rend violent. J'ai fait du rugby samedi. Si recommence, je rentre dans la mêlée.
Oh là là, calme. Merci Jean-Michel Apathy. Allez, une page musique maintenant. Le JDD revenait hier sur le texte d'une des chansons de David Hallyday. Il parle en termes très durs de vous, Laetitia. Hein.
Oh, Siri. Il parle de moi, David. Ah bah, oh, ça me touche, il parle de moi.
Enfin, il parle de vous avec des mots très durs, hein.
Non, mais vous êtes sûr qu'il parle de moi, David ?
Ah, j'en suis certaine, oui.
Bon, ben alors, je réclame la moitié des droits d'auteur de David. Mais quoi, c'est écrit dans ma loi américaine à moi.
Alors, Laetitia, la nouvelle chanson de David est une charge contre vous, vraiment, je lis les paroles. Tu peux m'empêcher de poser ma main sur son corps blessé ? Ou encore, oui. J'ai vu dans tes larmes couler la blancheur, mais noir sous le voile, je cherche encore ton cœur.
Oui, oui. Il y a aussi le couplet d'après aussi. Espèce de blondasse, t'es une grosse feignasse. Oui, il y a de la rime riche. Tu vas me rendre tout le blé que tu m'as chouré. Oui, oui, je crois que David m'en veut peut-être un peu toujours. J'ai hâte d'être vendredi pour découvrir tout l'album.
Ouais, non, mais c'est juste une chanson, hein, c'est pas...
Oui, enfin, l'album s'appelle quand même...
Crève Laetitia.
Grande forme pour commencer la semaine, Nicolas Canteloup et sa revue de presse avec Julie. À demain. Le tour de la question, Wendy Bouchard à partir de 9h.
Oui, chers amis.
Quel est votre sommaire? Vous allez parler de quoi ce matin?
On va rebondir évidemment sur le sondage du jour. 72% des Français qui soutiennent encore le mouvement des Gilets jaunes. 80% sur notre page Facebook qui pensent que ce mouvement va encore s'amplifier. Donc on est loin d'être sorti de cette spirale. Comment analyser cette crise aujourd'hui? Les questions sont très vastes. Toute la presse, Europe 1 a été mobilisée en particulier, analyse la pression sur Emmanuel Macron qui est vraiment très forte. On fait le point avec vous, chers amis, avec le sociologue Jean Viard et avec Bruno Jeudi de Paris Match. Et puis à 10h, on pose ensemble la question sur ce qu'est être cultivé. Il y a le petit Larousse de la culture générale qui sort ces jours-ci et on s'interroge. Voilà une culture générale qui nous permet de mieux comprendre le monde, justement, de la politique au cinéma. On parlera de tout cela.
C'est pas une histoire de diplôme nécessairement ou
non,
de carte de visite.
Non, pas nécessairement, absolument.
Voilà. Alors, on peut se cultiver dans la vie, tout simplement.
C'est un savoir fondamental.
À suivre donc dans votre émission.
Merci.
Et juste avant Wendy Bouchard, le tour de la question, il y aura aussi l'essentiel de la matinale.
Et la météo avec Laurent Cabrol. Il est 8h54.
Europe 1.
Il est 8h57 à suivre l'essentiel de la matinale, mais tout de suite à météo, Nikos avec Laurent Cabrol.
Et la douceur partout en France.
La douceur, effectivement, Nikos, douceur de température, d'ailleurs nos amis s'en sont aperçus, certainement s'ils sont déjà hors maison, il fait entre 11 et 15 sur la France, vous voyez que c'est une fourchette assez resserrée, dans la journée entre 14 et 20. C'est également très resserré comme fourchette, ça veut dire que c'est la grande douceur qui sera d'ailleurs la marque et le lot de notre semaine, en sachant que la semaine prochaine, il pourrait y avoir vraiment du froid. On en reparlera tout à l'heure à 10h avec Wendy Bouchard. En ce qui concerne les pluies d'aujourd'hui, elles vont toucher les Pays de la Loire, le Centre, Lorraine, Alsace, Poitou-Charentes, Franche-Comté, Limousin, Aquitaine, région toulousaine, Alpes du Nord, elles vont toucher et elles touchent déjà. Et des averses parfois violentes sur la région parisienne et la région lyonnaise, cet après-midi surtout sur Paris, avec des orages peut-être. Bourgogne, Bretagne, Champagne-Ardenne, des averses également. Et puis un temps plus sec sur le Piémont pyrénéen et le bassin méditerranéen. Voilà pour une journée donc que l'on n'a pas envie d'aborder avec le sourire, mais ça nous fait rien, nous avons le bon cœur.
Toujours, toujours, merci Laurent Cabrol.
Nous sommes le lundi 3 décembre, on revient sur les moments forts de cette matinale, Nico Saligas.
L'essentiel de l'actualité après ce week-end de violence, d'affrontements et de débordements en marge des manifestations des Gilets jaunes, le choc et la compréhension des Français. Écoutez Nicolas, c'est un jeune réserviste, il était à l'Arc de Triomphe samedi pour tenter de protéger la tombe du soldat inconnu. Son témoignage, c'était à 7h15.
La tombe était dévastée sous les canettes de bière, les bouteilles de verre d'alcool, les grenades. Ça m'a glacé le sang. Moi, j'ai honte. Je me suis surpris 3-4 fois à retenir mes larmes et à vouloir chialer. C'est un lieu, le lieu de souvenir national avec la flamme du souvenir. Ça, qu'on soit gilet jaune, pas gilet jaune, c'est tout le monde qui doit être autour de ça.
Alors après autant de violences, on s'interroge forcément ce matin. Ces violences auraient-elles pu être évitées ou pas? 5000 policiers ont été déployés à Paris samedi. Visiblement, ça n'a pas suffi. Y a-t-il eu des défaillances? Lesquelles? Explication de Guillaume Biet du service police-justice d'Europe 1. C'était dans le journal de 8h.
Un tel niveau de violence imprévu, avec des casseurs qui sévissent à plusieurs endroits, c'est quasi impossible à empêcher. Ce que les forces de l'ordre ont évité, c'est qu'il y ait un nouveau saccage des Champs-Élysées, comme le samedi précédent. Ça a marché. L'avenue et les institutions autour ont été protégées, mais ça a occupé le gros des troupes, avec une priorité: éviter qu'il y ait un mort ou des blessés graves. Après qu'il y ait de la casse de la part de gens aussi violents, c'est inéluctable.
Et alors que le Premier ministre reçoit aujourd'hui les patrons des partis politiques, beaucoup demandent à Emmanuel Macron de s'exprimer, d'apaiser la situation, comme Hélène, que j'avais rencontré à Mourinx vendredi dans les Pyrénées-Atlantiques. Je lui ai passé un petit coup de fil ce matin à 7h45 pour recueillir son sentiment. On l'écoute.
On est à 3 semaines de Noël et les gens ne se posent même pas la question qu'est-ce qu'ils vont acheter à Noël. Il faut laisser la parole au peuple et maintenant au président. Il faut qu'il se débrouille. On va lui dire « Emmanu, tu descends ou quoi ?»
Une semaine de haute tension qui s'annonce pour le président de la République. Que peut-il faire face à la situation? Que doit-il faire? Écoutez l'analyse à ce sujet de Jean-Michel Apathy à 7h40 ce matin.
Ce qui apparaît certain, c'est qu'Emmanuel Macron va s'exprimer de manière solennelle dans la semaine. Et là, il n'a pas le droit à l'erreur. Il a loupé son discours la semaine dernière. Il ne peut pas le louper cette semaine. Est-ce que les décisions qu'il prendra, s'il en prend, lui permettront de continuer à travailler avec Édouard Philippe ou pas? Édouard Philippe a fixé au moins une ligne rouge: ne rien changer à la fiscalité de l'essence Si Emmanuel Macron veut continuer à travailler avec Édouard Philippe, il ne doit pas toucher à cette fiscalité.
Voilà les consultations politiques ce matin avec Édouard Philippe qui reçoit les responsables politiques du pays. Les premières comparutions judiciaires aussi à suivre dans la journée sur notre antenne. Wendy Bouchard va revenir sur ce qui s'est passé ce week-end à Paris et un peu partout en France. On parle des Gilets jaunes évidemment sur l'antenne d'Europe 1. Merci de nous avoir suivis. Bravo à toutes les équipes techniques et éditoriales. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous.